on fait une intro spéciale ou...
J'aimerais bien te lancer un chapeau que tu leur attrapes au vol, mais tu vois, on est à la radio, tu vois, donc ça va donner forcément...
L'E3, cette petite conférence que vous ne connaissez sûrement pas, mais vos enfants l'adorent.
Tu veux qu'on le fasse en anglais ou pas?
Quoi?
Non, mais...
En anglais?
Ouais, je te le fais en anglais, hein.
Bah écoute, moi je vais bien le tenter, surtout que c'est maintenant, donc attention.
Oh yeah.
It's June the 14th, 2017.
Welcome,
it's Wednesday.
Everybody.
Welcome to the Dojo Bar.
Dojo Bar.
Bon. Merde.
Merde, tu fous gouré. Merde, tu fous gouré. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir, good evening.
Good evening, bonsoir Drosgar. On a fait une aussi belle intro que d'habitude les conférences d'Ubisoft qui pour une fois étaient pas si dégueulasses que ça.
Good evening, ouais. It's Julien Chies here.
Welcome to Los Angeles, we're here at E3 2017 to present you our new game from Ubisoft.
Please stop. Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut les bâtards.
Il est parti lui aussi. Zergy qui nous a dit s'être infligé la conférence de Sony tout en se martelant les testicules avec un marteau.
C'est cul patron.
Bon, on va commencer cette émission, alors il n'y aura pas de tour de table de l'actualité puisque cette émission est intégralement consacrée à l'actualité. Donc on va commencer par les conférences dont tout le monde se fout. À peu près dans l'ordre, on va essayer de retenir ce qui, on va dire, était à peu près intéressant.
La conférence y est.
Non, plus Joseph, il y avait Bethesda.
Ouais, voilà, mais c'est
Devolver aussi, apparemment.
Devolver, apparemment,
était très cool.
Non, mais je sais pas, j'ai pas compris, moi, les photos, parce qu'il y a une meuf qui a eu ses règles directement, en direct sur la scène, de ce que j'ai compris, elle était badigeonnée de partout, enfin...
Ah.
J'ai rien compris.
Est-ce que c'était une one-up girl, alors?
Je pense que I'll be your one-up girl. Voilà, donc on va commencer par les conférences dont tout le monde se fout. On fera une petite pause musicale qui va vous... Normalement, ça...
Mettre la pêche.
Ça va vous mettre une pêche d'enfer pour toute la nuit, vous n'allez pas dormir. Et on parlera ensuite des vraies actualités un peu intéressantes hein, qui concernent Nintendo.
Voilà. La conférence Ubisoft.
Alors, je vous propose de commencer par la conférence d'Electronic Arts. Je ne sais pas ce que vous en avez retenu. Voilà.
Sur Switch.
Plus de contrôle de balle.
Plus de contrôle de balle, la pousse plus réaliste, la moustache des joueurs.
Star Wars 2 parce que le 1, bah il manquait des trucs dedans.
Donc du coup on en sort un vrai comme Nintendo avec Deluxe.
Du coup on a fait du foot et du Star Wars. Ouais. Et ceci dit, FIFA sur Switch ça reste quand même une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'un FIFA alors qu'il considère qu'il sera à peu près au niveau des autres.
D'après ce que dit EA et d'après ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, la seule vidéo qu'on a eue jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui était visiblement myope ou dont la caméra était myope, hein, on ne sait pas exactement. Mais l'intégralité de la vidéo est floue. Néanmoins, EA nous promet que c'est le même jeu que sur les autres supports. Avec le même moteur, il y a juste un mode, je crois, qui a été enlevé pour des raisons...
Je crois que c'est le mode cinématique parce que c'est pas justement le moteur Frostbite. Hein. Il y a un mode histoire, en gros, tu suis la carrière d'un joueur avec des cinématiques et tout. Hein.
Et du coup, comme c'est pas sur le moteur de Frostbite que ça tourne, ça posait éventuellement problème. Parce que Frostbite est pas porté sur Switch encore, même si... Enfin, je sais pas si ça arrivera, parce que c'est quand même un moteur très 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 exigeant. Mais comme ils l'ont fait tourner sur PS3, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent par le porter sur Switch d'une manière ou d'une autre. En tout cas, s'il y a un marché, il y aura pas de problème, il sera porté. Effectivement, le seul truc intéressant à retenir de la conférence d'hier, Star Wars Battlefront 2... Vous pouvez dire ce que vous voulez, pour les fans de Star Wars, c'est quand même...
Piu, piu,
bah, c'est plutôt sympa, surtout qu'ils ont rajouté... il y a E3 Trilogy, donc ça fait un jeu qui est... Ça fait un jeu qui est très très complet, et qui, du coup, est sympa pour un fan de Star Wars.
Voilà.
Oui, et surtout, donc... le fait d'avoir une map qui se passe en ville, ça change un peu des espaces désertiques, qui se passent soit dans la neige, soit dans le sable, et ça fait du bien, ça change.
Oui, il va y avoir de la bataille un petit peu plus urbaine, de ce que j'ai compris, effectivement. Dans ce Star Wars Battlefront 2. Donc, il y a effectivement FIFA sur Switch qui est une excellente nouvelle. Personnellement, je pense que je le prendrais probablement parce que j'ai pas mal de collègues qui jouent à FIFA et en réalité, avoir la capacité de jouer avec des gens à qui tu joues pas du tout d'habitude parce que les jeux, enfin Mario Kart 8 ça les intéresse pas, Arms ça les intéresse pas, Street Fighter ça les intéresse pas et tout d'un coup tu dis ah ouais, mais il y a FIFA, bon là tout d'un coup tu peux arriver à les ramener, il y a peut-être moyen d'arriver à faire des trucs un peu sympas.
Alors, par contre, il y a
collègues, changer collègues.
Mauvais collègue, non, mais voilà, en l'occurrence, on choisit pas toujours ses collaborateurs.
Il y a d'autres conseils qui précisent que c'est un moteur dédié à la Switch en fait, c'est ni le Frostbite, ni l'ancien Init, oula c'est dur à dire, Engine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Engine.
Ouais. Engine. Frostbite Engine.
Ceci dit, ce sera pas le meilleur jeu de foot qui sortira sur Switch cette année, hein. Je le dis tout de suite, je garde le... Ça spoilera pas, mais il y en a un meilleur.
Oh. Tu vas spoiler quand en fait, parce que...
Il y aura Rayman.
Ils vont ressortir ISS.
Bah non, il y aura Rocket League.
Bref. Oui, mais enfin bon.
Oh.
Ouais. Bon.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, on a un peu du mal. Je vous propose de passer sur...
Et A Way Out.
Qu'était quoi ?
La conférence EA, A Way Out, le jeu en coop, là.
Ah, le jeu dont tout le monde se fout.
Mais non, en vrai, il peut être sympa.
Il a l'air vraiment cool. Mais il est court, mais s'il est bien, c'est...
Alors, j'ai joué au précédent jeu déjà ça. J'ai joué au précédent jeu des mecs qui ont fait The Way Out.
Hotel
Brothers.
Voilà, c'était sympa le temps d'une soirée.
Oui, mais voilà, là, ça
va être pareil. Oui, mais c'est ça. Mais c'est... Moi, franchement, je trouve ça plutôt cool.
Arrêtez, vous avez deux protagonistes qui sont trentenaires, bruns, machin. Enfin, ce jeu est tellement bourré de stéréotypes qu'il a absolument aucun intérêt.
C'est Prison Break, le jeu.
Il a des favoris. On voit jamais ça dans un jeu vidéo.
Des favoris dans... Oui, alors d'accord, très bien. Ils ont intégré les minorités qui ont des favoris. Super. Moi, à part s'ils sont gays au milieu de l'histoire et que ça tourne Brokeback Mountain, je vois pas l'intérêt.
Moi, je suis surpris que ce soit pas des noirs vu la réalité carcérale, mais... bon, on arrête là tout de suite.
Non, le problème, c'est que c'est le genre de truc qui est quand même assez casse-gueule parce que t'as vite fait de partir dans la caricature complète. Et en même temps, t'as vite fait de partir dans la caricature complète exactement dans le sens opposé. C'est-à-dire que je suis sûr que sur les deux, il y en a un qui en réalité était innocent mais qui a été condamné à tort parce que les gens sont des méchants. Ah, tu vois, c'est...
Il a été mouillé.
Ça pue le concours de clichés à plein nez.
Ils vont pas te faire jouer des mecs qui ont vraiment fauté dans leur vie, quoi.
Non, mais bon, voilà, c'est ridicule. Là,
généralement, les mecs essaient de s'échapper quand tu y joues, quand c'est des héros, ils sont pas gentils. Enfin, ils sont gentils plutôt.
Les gens, c'est méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Voilà, super. Donc, je suis désolé, aucun intérêt. A Way Out, je sais pas pourquoi les gens s'excitent là-dessus, ça a l'air d'être juste de la merde.
Mais c'est de l'art, tu comprends. Mortal, de l'art.
C'est du cochon. Pas pareil.
C'est meilleur.
Je vous propose de passer à la conférence d'Ubisoft. Donc c'est bien, nous avons battu notre record personnel. On a passé 6 minutes 57 à parler de la conférence d'Electronic Arts.
Déjà, on a parlé d'Electronic Arts pendant 6 minutes 57.
Je rappelle que l'année dernière, nous en avions parlé pendant exactement 44 secondes.
C'était déjà trop.
Qui était au moins 43 de trop. Hein, voilà. Donc Ubisoft, je ne sais pas ce que vous en avez retenu. Personnellement, j'ai retenu... Alors, je sais pas si on parle de Mario et les lapins crétins, la pagaille dans le royaume champignon.
On peut en parler parce que...
Je sais pas si vous voulez en parler maintenant, si je vais en parler après.
Peut-être après, avec tous les jeux
Nintendo. La présentation, quand même, durant la conférence Ubisoft, t'as pas mal marqué. Enfin, je l'ai pas vu, moi, en direct, parce que Ubisoft, je m'en fous. Mais il y avait Miyamoto sur scène, ce qui est quand même pas donné à tout le monde qui n'est pas Nintendo de l'avoir, hein, parce qu'il y a que Apple qui l'a eu pour le moment. Sur sa conférence, il est venu présenter le jeu, il a remercié le réalisateur qui apparemment a fondu en lave et en larmes.
Bah oui, t'imagines si dans la moto qui te remercie, je veux dire, tu ferais quoi à sa place, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a marqué les gens apparemment. C'est vrai que je trouve ça assez sympa comme façon de présenter le projet, qui franchement sur le papier est assez aléatoire, on va dire. On en reparlera après, mais...
C'est quand même un peu casse-gueule sur le papier, mais... Donc du coup, voilà, la conférence d'Ubi a été marquée par ça. Je vous propose de parler plutôt du gameplay et du jeu en lui-même plus tard.
Ouais. Oui, parce qu'on l'a revu, je crois, dans le Treehouse, de mémoire.
Exactement. C'était un des premiers jeux présentés au Treehouse.
Parce qu'il n'était pas dans le spotlight, hein, dans Nintendo Park.
Tout à fait.
Il a été présenté chez Ubi, donc c'est quand même une belle exclusivité pour Ubisoft. Hein.
Tout à fait. Puis en plus, c'est un beau partenariat, un petit peu comme le Zelda... Enfin, Hyrule Warriors était une espèce de belle vitrine
pour les
d'un éditeur tiers qui utilisait une IP de Nintendo. Là, c'est un petit peu pareil, c'est Ubisoft qui utilise des éléments de chez Nintendo pour aller faire son propre jeu. Je trouve que c'est quand même pas inintéressant.
Comme le mode Zelda dans Sonic.
Please, stop.
Ça a amélioré le jeu, en tout cas.
Ah, pardon.
Le mode Zelda en Sonic, ça pouvait pas être pire, de toute façon, là au moins c'est mieux.
Alors non, je vais garder ça pour la fin, parce que nous avons une question qui nous a été envoyée par mail. Hein. Nous avons une question, donc nous la garderons pour la fin de l'émission, comme d'habitude. Et comme ça concerne Sonic, c'est vrai que tout d'un coup j'ai sauté un petit peu sur le truc. Moi, le deuxième truc que je retiendrai de la conférence d'Ubisoft, c'est Skull and Bones.
Apparemment il est bien, mais j'ai pas vu, je sais même pas de quoi ça parle en fait.
Alors en fait, tu vois le mini-jeu des pirates dans Assassin's Creed 3 et
Black Flag.
et la partie Black Flag dans Assassin's Creed 4, donc là le gameplay un petit peu au cœur du jeu dans Black Flag.
Ah oui, c'est le jeu pirate.
Le jeu pirate, c'est un gameplay qui est absolument excellent, qui pour moi fait l'intégralité du jeu, c'est-à-dire tout le reste c'est de la merde, mais ça c'est vraiment tellement bien que ça rattrape tout le reste.
Assassin's Creed.
Et en fait, Ubisoft fait un jeu complet à partir de, on va dire, du à la base un peu Ketan Ex Pirate dans le 3, qui est devenu un peu plus le cœur du jeu dans le 4. C'est une évolution logique, c'est un excellent gameplay. C'est vraiment un truc super bien foutu, qui est ultra dynamique, qui est super agréable à jouer, qui est vachement original, qui peut être très compétitif s'il était... Alors malheureusement, dans Assassin's Creed, c'est du jeu solo.
Mais oui.
Quand tu commences à affronter les derniers navires légendaires dans Assassin's Creed 4 avec ton petit rafio, je te garantis qu'il faut quand même développer des stratégies bien de bâtard pour arriver à t'en sortir, et c'est quand même très marrant. Donc bon, moi j'en attends beaucoup de Skull and Bones. J'espère que ça sortira aussi sur Switch, parce que ce serait quand même intéressant. Mais voilà, si ça reprend ce gameplay-là, franchement, c'est plutôt bien parti, en tout cas.
J'ai vraiment peur qu'en multijoueur, ça risque d'être un gros bordel, dans le sens où tout le monde essaye de se foncer dessus et pas de se tirer dessus. Alors, parce que vu la démo de gameplay...
Ça dépend, parce que éperonner les gens, c'est quand même un risque. Tu te mets en frontal par rapport à un bateau, donc tu risques de prendre quand même des coups de canon. Il suffit que le mec tourne et il peut t'esquiver pour te... Enfin voilà, faut vraiment avoir joué Assassin's Creed 4 pour se rendre compte que c'est beaucoup plus stratégique que ce qu'on imagine au départ. Il s'agit pas juste de bourrer au mortier et d'aller ramasser les cadavres derrière.
Bah, la démo de gameplay, d'après ce que j'en ai vu, le fait de foncer, c'est beaucoup plus efficace. Et donc du coup, j'avais peur... Après, si tu me dis que dans Assassin's Creed 4, effectivement...
Si un navire te fonce dessus pour t'éprôner, il suffit que tu changes de cap, comme les changements de cap sont quand même beaucoup plus brutaux que dans la vraie vie. Si tu veux un navire qui change de cap, surtout un navire à voile, il fallait minimum 20 minutes pour le faire, quoi.
Ouais.
Voilà, donc là, tu peux vraiment changer de cap de manière extrêmement rapide dans Assassin's Creed 4. En quelques secondes, t'as changé de cap. Si le truc te fonce dessus, que tu changes de cap, que tu armes les canons de devant et que tu commences à bourrer, le mec, tu lui fumes ses voiles, il peut plus manœuvrer. Donc ça, okay. Ça peut aller très vite. Hein, si... Je pense que c'est vraiment un... Je te dis, dans Assassin's Creed 4, tu sens qu'il y a une... On va dire un embryon, parce que c'est pas aussi clair que ça, mais il y a une espèce d'embryon de pierre-feuille-ciseau, en gros, avec les différentes armes du bateau, que ce soit tes canons sur le côté, tes canons de poursuite devant, tes mortiers derrière. Voilà, tu as vraiment une espèce de jeu de pierre-feuille-ciseau dans lequel tu as intérêt, dans certains cas, à aborder des situations de manière un peu différente. Et le fait d'être obligé de louvoyer devant ta cible et de passer, si tu veux, d'un bord à l'autre, le temps que les canons se rechargent, par exemple, c'est quelque chose que tu apprends à faire très vite et qui exige quand même une sacrée maîtrise de ce que tu fais, une sacrée maîtrise du sens du vent, une sacrée maîtrise du courant que tu as. C'est pas si évident que ça.
Donc ça risque d'être très technique, ou alors c'est au contraire, enfin c'est pas si compliqué à prendre en main que ça.
Alors je dirais que c'est à la fois très technique et très arcade. C'est-à-dire que c'est très arcade dans le sens où sur un vrai bateau, un combat naval, ça dure pas 20 secondes, et à base de se retourner toutes les 10 secondes pour changer de canon, ça c'est juste pas possible. Et à la fois très technique, parce que dans Assassin's Creed 3, la dernière mission en fait en bateau, moi je l'ai faite avec le bateau pas upgradé du tout, j'avais vraiment le navire de base.
Ouais.
Et donc en fait je me servais des vagues, parce que c'est un truc qui se passe dans une tempête et t'as deux énormes manoirs à abattre. Donc c'est les vaisseaux les plus difficiles à battre du jeu, il y en a deux. T'es en pleine tempête, donc t'as les vents contraires, t'as les courants, t'as les vagues, c'est un vrai bordel. Faut arriver à... C'est vraiment ultra difficile. Et j'avais réussi à le faire sans aucune upgrade. Simplement, chaque fois qu'il y avait un manoir qui tentait une canonnade sur le côté, je me débrouillerais pour passer sous une vague et que les boulets de canon en fait atterrissent dans la vague, il y en a aucun qui touchait le bateau. Et en réapparaissant, tu te tournais, tu reprenais tes canons de poursuite, tu bourrais en plein dans le centre pour arriver à casser le plus possible ces canons. Mais tu vois, t'as vraiment des stratégies à développer qui sont super intéressantes, et quand t'as un minimum de maîtrise de ton navire et de ses différents armements, et que t'as bien compris comment ça marchait, t'as moyen de faire des très gros dégâts en n'ayant pas forcément des grosses upgrades derrière.
D'accord. Donc c'est vraiment un mix entre arcade un peu...
Arcade pour le côté, ça va très vite finalement, ouais, si tu veux, tes voiles se lèvent et se descendent instantanément. T'as un côté nerveux, t'as un côté... C'est pas du tout réaliste, quoi, je veux dire, c'est pas
oui, objectif. Oui.
Et en même temps, t'as un côté... Je te dis, beaucoup plus stratégique que ce qu'on imagine au départ, beaucoup plus fin, tout en étant le putain de trip à mort. Enfin, vraiment, c'est un gameplay. Moi, honnêtement, ma partie préférée sur Assassin's Creed 3, ça a été ça. Parce que je trouvais que c'était une espèce de mini-jeu, mais c'était juste... Enfin, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été un jeu à part entière dès le départ. Sur Assassin's Creed 4, ça le devient pratiquement.
Ouais.
Et là, le fait que ça devienne un jeu indépendant, pour moi, c'était l'étape logique suivante. Les mecs ont vraiment un gameplay béton là-dessus, avec... des idées géniales, vraiment, vraiment bien foutu, quoi. J'ai vraiment pas grand chose à en dire. Moi, j'ai vraiment kiffé ma race, ce gameplay-là, parce que c'est ultra subtil. Et en plus, je te dis, c'est le gros trip, parce qu'au final, je vais pas dire que tu te prends au jeu, mais un peu quand même. Tu te retrouves aux commandes d'un bateau et tu passes ton temps à manœuvrer et t'entends les mecs gueuler à canonnade à gauche, machin, boum, ah. Ça pète dans tous les sens.
Enfin, surtout vraiment... en équipe avec le fait de pouvoir se coordonner, à mon avis, exactement. Ça peut donner des choses qui sont très sympas. Alors, si c'est tel que tu le dis.
Je sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Guns of Icarus.
Pas du tout.
Alors, il y a un jeu qui s'appelle Guns of Icarus Online, c'est un jeu qui est vendu sur Steam seulement, c'est un jeu PC, qui est qui a pas eu un gros succès parce que ça reste un jeu de niche. Où en fait, c'est des équipes de 4 joueurs qui dirigent un zeppelin, donc un ballon dirigeable.
Les 4 sur le zeppelin ?
Les 4 sur le zeppelin, et
d'accord,
donc
c'est plus
initiatif. C'est ça, il y en a un qui pilote le zeppelin, il y a plusieurs postes de canons qui ont des canons différents, c'est-à-dire que tu as des canons qui ont une très grande portée mais qui finalement font peu de dégâts, il y a des canons avec des munitions enflammées, il y a des canons avec des gros dégâts mais qui ont peu de portée, enfin bref. Tu as 3-4 spots de canon, et en général, tu as 2 canonniers, un ingénieur qui se charge de réparer les dégâts sur le bateau au fur et à mesure, et un commandant qui va s'occuper de piloter l'ensemble. Et en fait, c'est un jeu qui se joue en équipe, et pour y avoir joué en LAN, en fait, le jeu en lui-même n'est pas extraordinaire, parce que c'est lent, c'est un zeppelin, donc ça manœuvre très lentement, le jeu se veut orienté simulation, donc du coup, il y a tout un tas de trucs très chiants à faire, mais comme tu es en équipe... et que tu passes ton temps à gueuler sur le commandant en disant « Putain, faut que tu vires à gauche, parce que là, on n'arrive pas à tirer sur le machin, vite, faut aller tirer sur la voile, le truc, le machin. » C'est quand même assez fandard.
D'accord.
Donc je pense que si t'arrives à combiner un gameplay plus arcade, plus nerveux, avec un côté super trippant, avec vraiment... C'est-à-dire, t'as les bruitages des canons, t'as le fait que t'as du flou, dès que tu tires au canon, tu sens que t'as tout le monde, enfin, t'as les oreilles sonnées, t'as vraiment toute cette ambiance sonore, visuelle, qui marche super bien. Si t'arrives à combiner ça avec un gameplay en équipe, où t'as vraiment des gens qui sont responsables des canons avant, responsables des canons sur le côté, je pense que ça peut vraiment, vraiment être le trip.
Ah mais sur, d'après ce que j'ai compris, sur Cross and Bones...
Skull and Bones.
Skull and Bones, oui, c'est ça, pardon. C'est une personne qui commande un bateau, il n'y a pas de...
Tu commandes ça change rien pas... si t'es à plusieurs bateaux... groupés qui doivent attaquer une même cible, je te garantis qu'il faudra avoir de la stratégie.
C'est plutôt chez Microsoft qu'ils sont plusieurs sur un même bateau. Hein.
Ouais, et ça, tu vois, pour le coup, j'ai préféré. Bon, on en parlera ouais. Après, je pense.
Ouais, parce que là, on vient de faire 10 minutes sur un jeu Ubisoft, je pense que c'est beaucoup trop pour
oui.
Cette mission.
Alors, je me permets oui. De rebondir sur ce que oui. Tu dis. Je suis ouais. Pas d'accord parce que c'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Si t'as pas joué Assassin's Creed 4, je te le recommande. C'est peut-être le seul Assassin's Creed que je recommanderais. Parce que rien que ce gameplay en bateau, c'est juste le putain de trip. Mais vraiment.
On verra quand il sortira. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez Ubisoft ? Il y avait Assassin's Creed aussi d'ailleurs, puisqu'on en parle.
Oui, Assassin's Creed Origins.
MDR.
Avec comment
cette il énorme blague.
Il s'appelle, je crois qu'on m'a dit Balek. Qu'il s'appelle quasiment Balek.
Bayek.
Mais ah, oui, Bayek, bah, coup, ça y est, ils assument chez Ubi. Ils assument le côté qu'ils n'ont plus rien à foutre, quoi.
Mais en plus, je sais même pas, est-ce qu'ils vont continuer à partir dans le présent ou pas du tout ?
Bah moi ça fait un moment que le gameplay dans le présent tout le monde s'en bat les couilles, en fait depuis le premier tout le monde s'en bat les couilles, des histoires
depuis,
d'Animus
depuis
et autres.
Depuis le 4 ils le font plus.
Alors le 4 ils le font encore.
Comme ça
hein. Ah non le 5 t'avais une Unity.
Attends, quand on dit le 4 on parle bien de Black Flag hein.
On ouais, parle ouais, de Black Flag, ouais, ils le font encore sur Black Flag.
Mais dans le 5 t'avais un passage où tu, si je ne m'abuse, où t'étais projeté à travers différentes époques. Donc je sais pas si... Enfin, ça avait encore un lien avec cette partie Animus.
Alors moi, je sais pas, mon plus gros problème avec ça, c'est surtout que Origins, c'est pas le sous-titre le plus moisi pour n'importe quel jeu vidéo.
Clairement, c'est ultra générique.
Il y a Révélation. Il y a Résurrection aussi. Quand t'arrives à Résurrection, c'est que t'es vraiment dans la merde.
Brotherhood, c'était pas mal. Hein.
Non, mais quand t'arrives à Révolution et à Révélation et que tu révèles rien, c'est globalement, tu t'es raté.
Il y a quand même un problème.
Tu t'appelles Fire Emblem, Resident Evil ou Assassin's Creed. Parce qu'ils l'ont déjà fait.
Oui, non, mais voilà. Le dernier truc qui a été annoncé, c'est Beyond Good & Evil 2.
Ah oui,
pas abandonné.
C'est le préquel, je crois qu'il n'y aura pas Jade dedans, d'ailleurs.
Et moi, personnellement, la DA me laisse un peu froide.
Ben, j'ai vu qu'il n'y avait pas le cochon, du coup, je suis vert dessus.
J'ai pas joué au 1, mais le trailer, il m'a bien fait envie.
Alors, si tu veux jouer au 1, je te conseille la version PC, du coup, avec
oui,
une manette.
De toute façon, j'ai pas de...
Il y a une version GameCube, mais qui, pour une raison que j'ignore totalement, j'en avais déjà parlé dans le podcast, est en 16/9 forcé avec des bandes noires pendant tout le jeu, et j'ai toujours pas compris pourquoi. C'est vraiment atroce, parce que enfin bon, je comprends vraiment pas pourquoi, mais c'est pas trop grave. Donc je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur BGE 2, je sais qu'il y a des gens à qui ça fait très plaisir.
Pour l'instant, il y a pas de plateforme, que c'est Michel encore Ancel.
Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas tellement d'autres infos, on n'est pas sûr que...
Ouais, on sait même pas sur quelle plateforme ça sort.
Si, alors justement, il y a William Enduro, si je prononce bien son nom, je crois que j'ai oublié.
C'est ça.
Non, ouais, qui a dit que Michel Ancel... Voilà, Michel Ancel jure que ça pourra tourner sur une PS4 standard, les ambitions sont dingues. Il donnait ses impressions, donc Beyond et Good and Evil 2, démo techno fofolle d'ambition, sorte de No Man's Case au carré, avec une touche franco-belge, meilleur jeu de la PS6, et puis après il disait que ça
pouvait tourner sur une PS4. Est-ce qu'il se fout de notre gueule ou pas? Parce que là, sa phrase veut absolument rien dire, sa
race.
Oui,
je crois qu'il se fout de notre gueule.
Non, à mon avis, ça veut juste dire que...
Please,
ça veut juste dire que ça a l'air très très cool.
Et voilà, que... c'est du concours de quéquette. Hein.
Et voilà, et que bon, Michel Ancel a dit que ça tournera sur une PS4. Donc je normalement PS4.
Je vous propose de passer à la conférence de Microsoft.
Shooter à flop.
Attends, on n'a pas parlé de...
C'est Just le X de Xbox.
D'accord, très bien. Hein. Donc nous ne parlerons pas de Just Dance 18. Peut-on passer à la conférence de Microsoft?
C'est le X de Xbox. Voilà.
Oui, la Xbox.
Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Microsoft à part qu'il y aura une Xbox One X?
À part de dire que c'est le pire nom du monde pour une
mais
console.
Mais faut le lire à l'envers.
C'est un acronyme récursif.
C'est un...
une X One Box
X? Xox.
Non, ça fait la Xenoxobix.
Xobix.
Je suis désolé, ça c'est le meilleur nom du monde.
Xenoxobix, oui d'accord. Bon, là, c'est validé, à partir de maintenant nous l'appellerons la Zobix.
Vu que c'est un concours de bits cette console.
Bon, j'ai l'impression que. Enfin, je sais pas, je.
Quelqu'un sait ce que c'est des teraflops?
Des teraflops, oui, c'est une unité de calcul informatique. C'est la quantité d'opérations en virgule flottante que t'es capable de faire par seconde.
Et apparemment, 6 c'est beaucoup.
6 teraflops, ça commence à faire ça commence à faire pas mal.
Quand tu en as 1, ça va, teraflops, c'est quand tu en as 6 qu'il y a des problèmes.
Putain, sauf quand ils sont auvergnats. Bref,
on est parti trop loin
merci.
Là.
voilà. Donc la Xbox One X qui n'a finalement, enfin moi ce qui me gêne un petit peu là-dedans, pour faire assez rapide, c'est que finalement Microsoft sort une machine dédiée aux jeux qui tourne sous Windows 10 bidouillé façon Xbox, alors qu'en réalité il y a zéro exclusivité dessus, donc je ne sais vraiment pas à quel pic ça s'adresse.
Comme la Xbox One.
Non, mais c'est un peu ça, depuis qu'ils ont dit que de toute façon tous les jeux Xbox One seraient disponibles sur le Xbox Marketplace sur Windows 10, c'est une machine sans exclusivité. Alors certes c'est très puissant, c'est-à-dire effectivement je pense que $500 pour un PC qui serait capable de faire de la 4K 60fps native avec 6 teraflops tout ça, on l'aura peut-être dans 6 mois au même prix, voilà. C'est un peu gênant, quoi, tu vois, de se dire...
Il y a 22 exclusivités seulement Xbox One, hein, d'après ce que j'ai vu pendant la conférence.
C'est toujours pareil.
Ils sont revenus là-dessus.
J'ai vu tout un tas de gens qui prenaient des paris comme ça en disant, mais au bout d'un moment, quand est-ce qu'on aura des jeux qui ne seront plus rétro-compatibles avec les Xbox One première génération? Parce que ça finira par arriver. La question, c'est de savoir quand. Moi, pour l'instant, la Xbox One X, le projet Scorpio me laissait déjà un peu froid. Il n'y avait qu'une histoire vraiment de quéquette et je trouvais ça
c'est un peu...
C'est une concurrence à la PS4 Pro. On est bien d'accord, mais je ne sais pas si on a les chiffres de vente de la PS4 Pro. J'ai pas l'impression que ça ait été un succès totalement délirant.
Sony ne les a pas communiqués. Il a dit qu'il y a 60 millions de PS4, donc j'imagine que c'est toutes versions confondues.
C'était la grande absente.
Mais la Xbox One X, c'est un peu la réponse de Microsoft qui se fait bolos sur la puissance de sa console depuis qu'elle a été annoncée, parce que tout le monde estime que la PS4 est bien plus puissante.
Mais qu'est-ce que ça va changer par rapport à la Xbox One S la Xbox One S, pour moi, était une étape un peu nécessaire, parce qu'effectivement, la console est plus petite, la LIM est intégrée. C'est plutôt un pas dans le bon sens. C'est-à-dire que pour une fois, t'as une console Microsoft qui ressemble pas à une brique de 40 kilos avec une putain de brique de 60 kilos pour faire la LIM. Je pense que c'est un redesign, on est d'accord, avec qui ajoutait 2-3 capacités, mais qui n'était pas non plus fofolle, mais qui pour moi était quelque chose de bénéfique. Et effectivement, j'ai l'impression que la Xbox One première du nom, elle se vend plus. Aujourd'hui, t'as plus que des Xbox One S.
Bah, c'est comme la PS4, hein, la normale n'existe plus, parce que la SIM est la Pro.
Voilà, mais si tu veux, j'ai l'impression que la Xbox One S, en plus, ils ont été super agressifs sur les prix. Donc peut-être que ça a un petit peu mieux marché, rattraper des choses et tout ça. Mais la Xbox One X, je vois pas quelle place elle va arriver à trouver, quoi.
Bah, c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que cette génération, Microsoft, ils sont inexistants, en fait.
Mais c'est ils sont inexistants.
Il y a Sony avec la PS4. Nintendo, les gens les suivent encore parce que c'est Nintendo. Et en plus, la Switch marche bien en ce moment. Et Xbox, ils savent pas tirer leur épingle du jeu. Donc en gros, leur argument pour la conférence E3, c'était « On a la console la plus puissante du monde. » Et apparemment, ils distribuent des t-shirts genre « I witness the most powerful console ever. »
Et surtout ouais, non, que c'est pas du tout... à mon avis, c'est pas posé comme une... comment dire, c'est pas le même tableau que la PS4 Pro. C'est-à-dire la PS4 Pro, elle se veut un poil plus puissante que la PS4 pour faire tourner les jeux un peu plus jolis. Et la Xenox Obix, elle est vraiment au-dessus, genre, et c'est vraiment pour ceux qui veulent une Xbox de luxe. C'est la...
J'ai l'impression que c'est ça, c'est une espèce de modèle super de luxe.
Ouais.
Ou comme disent nos camarades anglophones, de luxe. Voilà.
Plaisir.
J'avais vu un tweet qui était rigolo sur la Xbox, enfin sur la Xenox Obix justement. C'était Eric qui disait « Acheter une Xbox One X, c'est comme une Porsche, c'est beau, ça fait du bruit, ça frime, mais les autoroutes sont toujours limitées à 130 km/h. »
C'est un peu ça. Ouais, c'est tant que les jeux seront rétro-compatibles Xbox One, première du nom, et je vois mal Microsoft casser ça, je veux dire, même Nintendo, avec son habitude d'itérer dans les consoles, finalement, il y a très très peu de jeux qui étaient exclusifs DSi, par exemple. Il y a quelques-uns, mais il y en a très peu. Il y a aujourd'hui très peu de jeux qui sont exclusifs New 3DS.
Il y a Xenoblade
Chronicles. Il y a Xenoblade Chronicles.
Il y aura Fire Emblem Warriors.
Ouais, mais tu vois, c'est un jeu qui est vraiment très très tard. Et puis, à mon avis, il sort sur 3DS pour le principe. Enfin, sur New 3DS pour le principe. Et après, à part effectivement des trucs comme Hyrule Warriors où t'as un meilleur framerate si t'as une New 3DS, où tu peux y jouer en 3D si t'as une New 3DS et tu peux pas jouer en 3D si t'as une 3DS standard. Enfin, tu vois, ça reste plus dans l'esprit finalement PS4 Pro. Mais le problème, il est toujours le même, c'est qu'entre la PS4 et la PS4 Pro, enfin PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, finalement, t'as les mêmes jeux, simplement la PS4 Pro, c'est du 1080p natif, c'est du 60 FPS au lieu d'être du 30, c'est effectivement pour les gens qui sont, on va dire, un petit peu plus exigeants ou qui veulent le truc en plus. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est la Ferrari qui sert à rien, surtout que Microsoft est en train de totalement se noyer sur cette génération-là. D'abord parce qu'ils ont donné, je suis désolé, la compatibilité Windows 10 de tous les jeux, ça veut quand même dire qu'ils en ont plus rien à foutre du marché des consoles.
Ils n'ont vraiment rien à foutre, ils ont ressorti la manette de la toute première Xbox.
Non, alors c'est la grosse. La rétrocompatibilité Xbox première génération est quand même plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble.
Il y a les PC, il y a Steam pour ça, monsieur.
Oui, mais t'as pas tous les jeux dessus, et en plus, enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne initiative parce qu'au départ ils avaient dit avec la Xbox One, il y aura pas de rétro-compatibilité parce que c'est trop compliqué. Puis finalement, bah, comme ça se vend pas, que les gens gueulent et tout ça, bah, ils disent, ah, finalement rétro-compatibilité 360, et puis maintenant, ah, bah, rétro-compatibilité Xbox. Donc, Microsoft sur cette génération, c'est une putain de girouette en fait. Hein.
Bah, ce que j'avais dit un peu la dernière fois, je crois qu'on en avait parlé bah, l'année dernière, je pense. Quand ils avaient présenté la rétro Xbox et les jeux Windows 10, c'est que globalement, bah, ils voient qu'ils sont à la ramasse. Donc ils peuvent pas se permettre de tout garder sur leur console comme ils ont fait sur 360. Et du coup, bah, ils préfèrent que leurs jeux soient disponibles un peu partout pour quand même faire des ventes, les rendre accessibles plutôt que les laisser sur leur console qui se vend moyennement parce que maintenant ils donnent plus les chiffres de vente. Mais on sait vraiment pas à combien elle est, quoi. Je crois que la dernière fois c'était à 20 millions.
Et oui, mais elle est en train de se faire tailler des croupières, ça, on va être clair. Mais je pense qu'en faisant ça, ils ont un vrai problème finalement de communication parce que le Xbox Marketplace, même s'il est inclus par défaut dans Windows 10, ça empêche pas que le premier truc que les gens font, c'est installer Steam.
Oui, et puis même apparemment, ouais, c'est vraiment pas bien foutu. Hein,
le Windows Store,
je n'ai pas de Windows 10, je n'ai plus d'ordinateur sous Windows depuis des années, donc je serais incapable de vous le dire.
Mais je pense que avec ça, en fait, ils veulent se diriger vers ce qu'ils avaient voulu faire en fait au début. Ils reviennent petit à petit, c'est-à-dire avoir une console pour tout faire, et je pense que du coup, c'est pour ça que le nom Xbox One, maintenant ça va être leur Mac, il y aura pas de Xbox
On
Go,
est d'accord,
il y aura pas de machin.
À quel moment, parce que moi à mon avis, je pense qu'ils vont quand même se casser les dents sur le sujet,
Mais bah, si tout est rétrocompatible.
Bah, justement, la problématique, c'est qu'à un moment, tout ne pourra pas être rétrocompatible. Genre, dans 6 mois, 1 an. Toujours pareil, imaginons.
Ah oui, non, je vois.
Imaginons non, mais dans 6 mois, 1 an. La PS4 Pro finisse par, en termes de vente, il ne se vendrait plus que des PS4 Pro. J'y crois pas une seconde, parce que Sony a sorti quand même la PS4 Slim en mode budget. Pour justement être certain que les gens continueraient à acheter en réalité des PS4 pas chers, parce que c'est ce qui permet d'aller faire se vider les rayons, je suis désolé. Il y a un moment où le prix, ça a quand même une importance. Imaginons que Microsoft dise, bah, maintenant, il n'y aura plus que la Xbox One X, il n'y aura plus d'Xbox One S, machin, on sort la Xbox One X, on la vend, machin. Donc, tout va bien. À quel moment est-ce que les développeurs vont se dire, ok, il y a un parc installé de 20 millions de machines, 25 millions, 30 millions, on s'en fout, on arrête d'être compatible Xbox One première génération, parce que dans 10 ans, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura plus de sens.
Je pense qu'on voit un peu trop, on tire un peu trop sur la comète à l'heure actuelle. Hein.
Moi, à mon avis, il y aura quand même une Xbox One 2.
On pourrait essayer de tirer. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont faire comme ça des modèles toujours plus puissants. C'est comme des smartphones, genre
oui,
vraiment. Non,
mais d'accord, mais c'était l'hypothèse de base de Sony de dire les gens rachètent un smartphone tous les 2 ans, ils vont bien racheter une console tous les 2 ans. J'ai l'impression que dans les faits.
Ah oui, non, ça c'est pas possible tous les 2 ans. Mais je pense que le fait que même tout soit rétrocompatible, et c'est vraiment l'impression que ça m'a laissé, le fait de dire la première Xbox est rétrocompatible, c'est-à-dire que, bah voilà, c'est notre produit final, vous aurez tous les jeux Xbox dessus. Et puis, peut-être pas tous les 2 ans, mais peut-être tous les 3 ans, il y a un modèle Deluxe qui sortira, que vous pourrez pas vous payer tout de suite, mais que, au bout de deux ans, ouais, il y a, et quand elle baissera de prix, elle sera abordable.
Ouais. Franchement, je suis pas convaincu. Je pense qu'ils vont vraiment se casser les dents. Surtout à ce prix-là. Dire ça va être encore plus une console de niche que la PS4 Pro.
Ah mais la Scorpio, la Xenoxobix, personne va l'acheter au départ.
La Xenoxobix. Si, il y aura toujours les fans hardcore.
C'est plus facile à dire.
Non mais il y aura toujours les fans hardcore, mais.
Pas le grand public.
Maintenant, les fans hardcore de la Xbox, je veux dire, maintenant, ça doit compter sur les deux mains.
Ah, mais c'est comme le possesseur de Vita. Ils l'ont pas sorti pour faire des ventes. Hein. Ils l'ont annoncé clairement.
C'est un modèle premium comme leur manette Xbox One Elite qui coûte 150 boules.
Oui, c'est une espèce de représentation. C'est de l'esbrouve pour dire, regardez, on est trop des gamers, on fait la console le plus puissant du monde.
Mais c'est exactement pour ça. C'est
en prévision dans quelques années.
C'est juste pour se la péter.
On est d'accord, mais comment ça va les aider en termes de vente? Ils sont noyés.
Ah mais ils sont à la ramasse. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire Microsoft sincèrement, et en plus quand tu vois le line-up des jeux, t'as l'impression que c'est le même que l'année dernière. D'ailleurs c'est peut-être pas
c'est
que
le même que l'année dernière.
Toujours en Forza, toujours.
Toujours Sea of Thieves depuis 3 ans. Il y a sûrement.
Aussi, ouais.
Il y avait un Halo ou pas?
Non, il y avait pas de Halo, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression de vous. Enfin moi personnellement la différence entre.
Il est sorti dernier Gears of War.
Oui. Le 4 est sorti, oui.
Ça... Et je suis complètement largué sur la sortie.
Non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tout le monde s'en branle. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Enfin, Forza Motorsports, quand ils ont dit 7, je me suis dit, tiens, où sont passés 4, 5 et 6? Parce que je suis désolé, mais ils en sortent un par an, maintenant. Enfin, c'est...
Bah, je sais pas.
Je savais même pas qu'il y avait un 6. Hein.
J'avais même pas capté. Mais est-ce que le Forza Horizon, ça compte comme un motorsport?
Non, apparemment, c'est pas un motorsport, puisque c'est un Horizon.
Bah alors, ils sont où, les 6 autres?
Mais j'en sais rien.
D'accord.
Franchement, j'en sais rien, je me pose la question.
Bah attends,
ils ont fait comme les Windows, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Finalement, ils ont sauté directement du 9 au 10. Je vous propose de finir avec la conférence de Sony. Alors, pour la conférence de Sony, comme il s'est passé beaucoup de choses, je vais laisser la parole à Zerfi, qui va nous résumer ça en... allez, 15 secondes, ça te suffira?
Oh, ça ira.
Ok, bah, alors, je t'en prie.
La conférence de Sony, en fait, pour faire court, c'était... chiant, c'était soporifique et paresseux. En fait, c'était un peu comme un McDonald's. Tu prends des trucs bien gras, tu prends des bons gros trailers bien gras, mais quand tu sors, t'as encore faim. Parce que c'est absolument pas nourrissant. Et en fait, leur conférence, c'était exactement ça. C'était 3 blocs avec que des trailers, entrecoupés d'un mec qui fait un petit discours pendant 1 minute. Et c'était, t'avais un aspect très vide, très feignant.
Mais alors, c'est ce que j'avais cru comprendre de tout ça. Enfin, moi, je l'ai vu. C'est vrai que bon, les conférences de Sony, on a souvent tendance à roupiller. Mais là, je trouve que c'était encore pire que d'habitude, parce qu'il n'y avait pas de hype, il y avait pas de, c'était pas quali en plus comme présentation. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas de, il y avait pas d'orchestre, il y avait pas de, enfin, tu vois.
Non, il y avait rien. Il y avait des trucs qui faisaient des flammes à côté de la scène, mais c'est tout.
Ouais.
Et en fait, Si tu veux, ce que j'ai vu, les joueurs Sony sont un petit peu hypés sur quelques jeux, mais ils reconnaissent quand même que Sony se repose sur ses lauriers, quoi.
Bah, c'est-à-dire que maintenant qu'ils ont 60 millions de consoles, ils ont gagné cette génération.
Oui, ils s'en battent un peu les couilles, quoi.
Le Spider-Man a l'air tellement osef. Il a l'air tellement nul.
Alors, les 15 dernières minutes, c'était que sur Spider-Man, quoi.
Ça a l'air tellement nul et générique.
Et ce qui était marrant, c'était que le mec qui est venu entrecouper les séries de vidéos, en fait, il a rien dit. Le mec, il était absolument pas joyeux et il disait...
Et maintenant, c'était le trailer de Spider-Man.
C'était PS4 Pro is the future, VR is the future, blabla, mais rien, quoi. Enfin, c'était...
Alors oui, boucher les trous. Moi, la seule information que je...
Et tu n'apprenais rien sur... t'as pas eu de petit bilan sur la PS4 Pro, sur la VR. T'as rien sur ce que Sony prévoyait de faire dans le futur.
Si tu veux, je te le fais le bilan sur la VR.
Ça se vend pas. Ah oui, oui.
Je suis étonné qu'ils aient pas laissé tomber, d'ailleurs.
Tiens. Alors, pas dit 15 secondes, ils ont fermé des filiales qui s'occupaient de la VR.
Mais attends, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que je me suis connecté sur le Twitch de Sony un petit peu avant la vidéo, un petit peu avant la conférence, et ils présentaient des jeux, dont des jeux VR. Et les jeux VR qu'ils présentaient, franchement, t'avais l'impression que c'était Wii Sport avec un petit skin futuriste. Si la VR, ça sert à ça, voilà, quand on va ressortir la Wii, ça fait pareil.
Et ce sera moins cher.
Oui, ça, ce sera nettement moins cher. Voilà.
Je voulais faire un petit mot sur la conférence.
Mais je t'en prie.
C'est vrai que l'impression que j'en avais en me levant le lendemain matin en allant sur GameCube, c'était que les gros trucs, c'était les trucs de l'année dernière qu'ils avaient à peine présentés et que là, ils ont bien montré. Et j'aimerais revenir sur ce qui est censé être un des gros. Hein,
tous leurs jeux sortent minimum à la rentrée. T'en as un à la rentrée, t'en as un ou deux à la fin de l'année et tout le reste, c'est 2018.
Ouais, non, bah, si tu m'aurais dit sort tous en fin d'année, j'aurais trouvé ça bien. Mais donc, il y avait le God of War, surtout, qui était censé être la grosse annonce. Et alors, moi, je trouve ça à chier. Mais à chier.
Fais du babysitting.
J'aime pas God of War en temps normal. Je suis pas très fan. Je trouve ça... Enfin, j'ai joué à God of War 2 pour la première fois après Bayonetta. Autant vous dire que ça m'a fait un choc, parce que c'était vraiment mou du bulbe et vraiment pas intéressant après avoir fait joué avec la sorcière de Platinum. Et là, j'ai vu ça, j'ai vu la caméra à l'épaule façon TPS, j'ai vu l'espèce de combat mollasson avec une hache un peu moche, et ce moment où tu vois Kratos qui s'occupe d'un gamin, comme dans Last of Us, et je me dis, mais est-ce que c'est ça la vision du jeu vidéo AAA ?
Je pense que c'est God of Last of Us.
Non mais, est-ce que c'est ça la vision
AAA ? Kratos hipster.
Mais non, mais c'est des vieux barbus qui s'occupent d'enfants et tu dois juste suivre des couloirs et t'infliger ça.
Je suis désolé, ils suivent la démographie moyenne des joueurs qui maintenant ont 30 ans et des gamins.
Oui, mais c'est à chier. Enfin,
c'est,
oui,
pas
c'est, à chier. C'est pas que c'est à chier, mais même au cinéma, ils le font pratiquement plus ce genre d'histoire parce qu'ils ont bien compris que les gens s'en foutaient et qu'ils avaient un public assez varié pour ne pas avoir besoin de le faire et faire passer ça pour des trucs intéressants. Et je me dis, c'est triste que tous ces jeux de Sony se ressemblent, mais tellement de plus en plus maintenant. On dirait Uncharted 4 qui ressemble à The Last of Us, qui ressemble à God of War, mais c'est triste.
Uncharted, Last of Us, God of War.
Ouais, je trouve ça super triste en fait, en termes de variété, parce que ouais, c'est des jeux cinématiques, ça fait adulte et tout, mais au final, toujours pareil.
Non, je pense qu'on va revenir au bon vieux FMV avec des QTE. Hein. Ça pas
mais
tarder,
le problème, je pense, c'est qu'avec le trailer qui avait été montré l'an dernier déjà. Les gens s'attendaient à un truc un peu plus RPG, un peu plus The Last of Us, et en fait non, c'est juste un beat'em all, mais avec un gamin pour lequel tu dois t'occuper, quoi. Tu dois t'occuper d'un gamin en plus, c'est tout. Mais sinon c'est un God of War
2017.
Ouais, mais sinon t'as le Shadow of the Colossus HD qui peut valoir le coup, parce que le premier...
Il est pas déjà ressorti 4 fois ce jeu.
Alors il est ressorti sur PS3, la version PS3 c'est la version PS3 est la vraie version de Shadow of the Colossus, c'est celle qui ne rame pas, et la version PS4
c'est celle qui tourne à un petit peu plus de 10 frames par seconde.
Non, c'est celle qui fonctionne sur son support, on va le dire.
Merci,
en gros c'est simple, Ico aurait dû sortir sur PlayStation, il est sorti sur PlayStation 2. Le Zelda Guardians devait sortir sur PS3 et sorti sur PS4, et Shadow of the Colossus aurait dû sortir sur PS3.
Il est sorti sur PS2.
Et du coup, pourtant, il
pour moi,
sur
je
PS4.
Savais pas qu'il avait déjà été refait. Oh, ils ont présenté. Oh,
il a pas été refait, il a juste été porté. Hein. C'était le même jeu.
Je
là,
crois
sur
que
PS4,
le truc le plus n'importe quoi qu'ils ont présenté, c'est Final Fantasy XIV Monster of the Deep, où tu fais de la pêche.
Et non, Monster of the Deep.
Non, ça c'est.
Honnêtement, Final Fantasy Monster of the Dick, ça m'aurait beaucoup plus intéressé.
Moi aussi.
Surtout qu'avec cette gay-friendly buddy movie style tout à fait Final compatible. Fantasy XV, honnêtement, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose.
Ah, mais tous les Final Fantasy sont gay-friendly depuis que c'est passé chez Sony, monsieur. Hein.
Putain, c'est vraiment hardcore, quoi. Bon, je vous propose de faire quand même une petite pause musicale, d'abord parce qu'on a une super chanson à vous passer, donc ce serait quand même dommage de s'en...
Et que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle des autres.
C'est du One Direction pour être d'accord avec FF.
Oh putain. Voilà. Oh, bâtard.
J'ai tout spoilé. One Direction, c'est pas le concept du monde ouvert de Final Fantasy XV. One Direction.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est FF13, autant pour moi.
Excusez-moi.
Bien joué.
Donc, nous allons nous écouter un petit morceau qui s'appelle I'll Be Your One Up Girl, qui est en fait la musique du trailer de Super Mario Odyssey et qui est un morceau qui est juste totalement ouf. Mais grâce à Monsieur Galaxies, on a la version qui est sans bruitage, donc c'est vraiment une version qui a été enregistrée spécialement pour ça. Et je trouve cette musique absolument extraordinaire, c'est le truc que t'écoutes en boucle qui te fout une pêche d'enfer pour la journée. Bref.
C'est le bon truc pour quand t'es au boulot et que tu vas avoir une semaine de merde.
C'est exactement ça, et voilà, c'est extraordinaire, on vous laisse écouter ça, ça dure un petit peu plus de 4 minutes. À tout de suite.
I'll be your one-up girl.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Et donc,
je serai votre en haut la fille sur le thème de Super Mario Odyssey.
Ça me rappelle un film que j'ai vu, je sais pas si. Bref. Nous allons donc parler de Nintendo de manière générale. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une espèce de collection de trailers d'à peu près 25 minutes. D'ailleurs, je trouvais ça très court. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas détaillé beaucoup. Ils ont dégainé.
Ils ont fait la même stratégie que chaque année. Et je trouve que c'est une bonne chose quand on se plaint de Sony où c'est chiant, ça dure 15 ans. Fait. C'est qu'en gros, ils se font leur Nintendo Direct pour présenter des trailers exclusivement Switch pour le coup. Toute la 3DS avait été évacuée il y a un mois dans le dernier Direct.
Et ensuite, il y a le Treehouse. Si t'as envie d'en savoir plus sur un jeu, tu as les horaires du Treehouse où tu as vraiment du gameplay qui on te montre vraiment le jeu avec des gens qui jouent vraiment, qui t'expliquent les subtilités, le bazar, le truc. Donc. Effectivement, ça, comme chaque... t'as la version digest finalement au départ, et puis t'as la version longue.
Ouais, t'as les trailers pour te donner envie, et après t'as les présentations. Et comme chaque année depuis 3 ans où tout le monde se plaint, mais non, Nintendo fait pas de conférence, moi je trouve que c'est très bien parce que du coup t'as des présentations longues et détaillées que t'es pas obligé de te farcir pour des jeux. Et quand le jeu t'intéresse pas, t'es pas obligé de te la farcir. Et ça, je trouve ça super bien. Là, du coup, si un jeu t'intéresse pas, bah 2 minutes plus tard, tu sais qu'on passe à autre chose. Et je considère que c'est toujours une très bonne chose de faire ça, et 25 minutes, c'est bien, mine de rien.
On a vu
beaucoup de choses en 25 minutes.
On est d'accord. On va commencer par expédier tout ce qui est, on va dire, où on n'a pas tellement d'infos. Donc, il y a un nouveau Kirby qui sortira en 2018.
Qui ressemble à tous les Kirby sortis depuis la version Wii.
Exactement.
Et qui a un petit truc sympa, c'est qu'on peut, s'allier avec ses ennemis et prendre combiner leur power-up avec un autre, comme c'était le cas sur 64.
Exactement.
Donc, ça pourrait être fun. Il y aura un mode multi, du coup.
Donc ça, je pense que ça va être comme les Kirby, je veux dire, c'est toujours sympa, moi c'est des jeux que j'aime beaucoup.
Ah, je pense que ce sera parfait pour la Switch et ces deux Joy-Con.
Effectivement, je pense qu'il y a un gros potentiel pour un Kirby en coop. Celui de la Wii, Kirby's Adventure Wii, était vraiment très très bien en coop. Même si c'est un poil court, mais comme tous les jeux Kirby, un peu facile, un peu court, mais globalement c'est toujours très amusant.
Il y aura sûrement deux mini-jeux à la con. Hein.
Oui, après il y aura peut-être de quoi remplir le truc. On a aussi eu un Yoshi.
Par les mêmes mecs que Woolly World,
voilà.
Avec une plus ou un truc côté Paper Mario en termes de décor, mais
ça a l'air
d'être sympa.
Ça va être sympa, mais comme les Yoshi, c'est des jeux qui sont sympathiques et qui bougent tout, mais pas extraordinaire. C'est très bien pour les enfants.
C'est un peu ça, en fait, Yoshi et Kirby, c'est un peu des bouche-trous, mais ce sera très sympa pour les enfants. Et d'ailleurs, la mécanique de ce Yoshi me faisait penser à celle de Super Paper Mario.
On est bien d'accord, c'est le premier truc que j'ai pensé en voyant le
ça, le papier, je fais ouh, ça me dit un truc.
Non, il y a une cross inspiration qui est un petit peu intéressante. On a donc appris que Rocket League allait être porté sur Switch et qu'il y aurait du crossplay.
Ça, ouais. C'est une très bonne chose. Ouais, avec cosplay, c'est très, très PS4, bonne.
Et on,
normalement.
Et on aurait des objets exclusifs à la version Wii U, donc très probablement à l'image de Nintendo. Je pense d'ailleurs qu'il y aura un carte de Mario Kart qui va popper à un moment.
Bah, ça serait tellement bien. Le chapeau Mario, d'ailleurs. Sur
ouais,
le...
bah, ça, c'était
et temps, celui de la casquette de Luigi aussi.
En tout cas, Rocket League, excellent jeu de foot arcade avec des petites voitures. C'est une bonne marge de progression, beaucoup de subtilité et qui est vraiment fun à jouer à plusieurs.
Alors, par contre, le seul truc que je me pose comme question, je me permets quand même, parce que moi, j'y joue un petit peu, enfin, j'y joue de temps en temps sur PC avec un Steam Controller qui a des gâchettes analogiques. Sans gâchette analogique, est-ce que ça risque pas d'être un peu galère? Tu vas me dire, on s'en fout, en général, tout le monde bourre l'accélérateur sans réfléchir.
Mais ouais, voilà, pas trop à haut niveau.
Alors voilà, mais je pense que de toute façon, c'est pas destiné pour du haut niveau. Maintenant, c'est quand même une bonne nouvelle. Les mecs visent 60 images par seconde, 720p, c'est-à-dire quelque chose de très raisonnable sur l'écran de la Switch. Ça peut être un petit peu moins beau sur l'écran de télé.
C'est pas un jeu très gourmand.
C'est pas un jeu extrêmement exigeant, et c'est effectivement amusant. Et ça fait partie des jeux qui manquaient, entre guillemets, sur Wii U. C'est la seule console sur laquelle ce jeu n'est pas sorti. Donc c'est quand même très dommage. Et le crossplay est aussi une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller jouer à Rocket League avec des gens qui ont un PC, avec des gens qui ont une PS4, avec des gens...
Non, pas PS4. Pas PS4. Sony veut pas.
Non, pas non, Sony.
J'ai des petits-enfants.
Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que sur Minecraft aussi... Enfin, Sony est... Et pour l'instant...
Ils ont 60 millions de consoles, d'ailleurs, ils sont en train de revenir.
Ils sont en train de revenir à leur décision, parce oui, qu'en voyant Microsoft et tout organiser leur ligue des consoles, leur ligue des consoles crossplay, ne serait même sur Minecraft, je pense que ça leur fait pas un peu peur, mais je pense que ça les fait chier d'être à l'écart.
Bah, c'est-à-dire que je pense que quoi qu'il arrive, plus on avance, c'est, je vais l'exprimer ça sous le volet technologique. Une technologie n'est intéressante que si elle peut se connecter à plein d'autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as ta technologie qui se connecte qu'à tes trucs dans ton coin, bah si tu as une certaine image de marque, si tu t'appelles Apple par exemple, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera pas éternellement non plus. Il y a un moment où l'ouverture, t'es obligé de la faire.
Ouais.
Et je pense que dans les années à venir, de l'ouverture, on va en voir de plus en plus de ce genre-là, parce que justement, les gens qui achètent Rocket League sur Switch ou qui achètent Rocket League sur PS4, ils comprennent pas pourquoi leur copain qui a acheté Rocket League sur PC, bah, il peut pas jouer avec toi, il faut qu'il achète une PS4 et Rocket League sur PS4. Et effectivement, les gens sont de moins en moins habitués à ça, parce que finalement, ça fait quand même des années que les jeux sont tous identiques sur tous les supports, à quelques détails dont tout le monde se fout, près. Maintenant, le fait que tout le monde puisse jouer au même jeu, mais sur des supports différents, c'est quand même l'évolution naturelle de ça.
Et donc surtout que quand on se place dans la tête d'un consommateur qui connaît rien dans la technique, voir le même jeu partout et se dire bah pourquoi je peux pas jouer avec mon pote, ça doit avoir aussi quelque chose qui est quelque chose de frustrant.
Il y a un côté frustrant, mais comme on a eu des articles il y a 3-4 ans maintenant de gens qui disaient. Des articles de journalistes un peu sérieux qui disaient on va arriver de plus en plus dans un monde dans lequel les consommateurs ne comprendront pas pourquoi ils peuvent pas acheter Zelda et y jouer sur leur PS4. Et je pense qu'effectivement, on va arriver à un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché des smartphones y est quand même pour beaucoup. C'est-à-dire que t'as 99% des applications pour smartphones qui sont disponibles aujourd'hui sur Windows Store, pas forcément du coup, mais c'est-à-dire sur Android, sur iOS. Windows Store, ça aurait pu décoller, mais malheureusement, ça l'a pas fait. Et tu te retrouves avec des jeux comme je sais pas Cut the Rope qui est disponible sur absolument toutes les plateformes possibles et imaginables. Donc effectivement le consommateur lambda il comprend pas, il a une PS4, il veut jouer à Zelda, il comprend pas qu'il puisse pas le faire. On va arriver dans un monde dans lequel on a tellement abruti les gens finalement, on a tellement pris les consommateurs pour des cons qu'ils vont finir par vraiment le devenir, et quand ils le deviendront ils achèteront plus, et à ce moment-là les gens seront obligés de faire effectivement du multiplateforme et de faire de l'ouverture technologique énormément. Ouais. Bref. Parenthèse fermée, intéressante voilà. Mais fermée. Contenu suivant, un tout petit peu intéressant, un petit jeu, un truc pas grand chose, Metroid Prime 4.
Il est juste annoncé pour l'instant.
Un petit jeu indé.
On ne sait même pas qui développe, hein. C'est pas Retro Studio, c'est une autre équipe.
On est d'accord.
Ah, je l'avais vu passer, mais je m'en rappelle plus.
C'est non. Les équipes internes de Nintendo, si j'ai bien compris.
Non, c'est le studio, les équipes sont pas connues à l'heure actuelle, mais.
Ah, d'accord. Donc Metroid Prime 4 qui a juste été annoncé, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il est en développement, on n'a pas de date, on n'a pas de trailer, on n'a rien du tout, on sait juste, voilà, le jeu est en développement, c'est tout.
Je pense qu'il a été annoncé pour dire on a dit le go, et puis c'est un peu pour relancer Metroid, quoi.
Idem pour un vrai Pokémon sur Switch. Il a été annoncé, mais il n'y a rien.
Non, mais ça, à la limite, c'était presque, c'était presque prévisible. On saura rien pour l'année
prochaine. C'est pas Pokémon Tournament DX ?
Toi, mais je putain,
c'est pas Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune et Final Challenger ?
Apparemment, dans la version deluxe, il y aura un guest star Jean-Luc Mélenchon qui sera jouable le drac au feu qu'il est.
Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, Pokémon Poison. Moi, j'avais compris qu'il y avait Pokémon Tournament DX et que c'était bien déjà.
Oui, avec 5 persos en plus, dont un seul qui est vraiment nouveau.
On s'en fout un peu de Pokémon.
Bon, bref, on va arriver. Alors, on en a un petit dernier avant d'arriver aux deux gros morceaux, même si celui-là est un peu plus. Bon, Fire Emblem Warriors, dont on a vu un trailer un petit peu plus long, mais malheureusement, toujours pas de gameplay.
Si, dans le Treehouse.
Alors, dans le Treehouse, il y en a eu ?
Alors, ouais. Et,
parce que moi, j'ai pas suivi le Treehouse, du coup.
Oui, alors, il y en a eu hier soir. Et c'est un peu ce que je craignais, c'est que globalement, c'est. Tu vois Hyrule Warriors ?
T'appliques des skins.
Et ben c'est un mousseau quoi.
Voilà. Il y a pas d'originalité. J'espérais qu'ils feraient un truc un peu plus original vu que Fire Emblem.
Genre avec un peu triangle des armes ou un truc comme ça.
Bah, apparemment il y a, mais je pensais un truc qui ressemblerait plus à du Fire Emblem, comme ce qu'ils avaient pu faire avec Dragon Quest Heroes, que je ressortirai dès que je parlerai de mousseau à chaque fois maintenant. Mais non, bah pour le coup ils sont pas trop fait chier. Ils ont montré des personnages en plus qui sont issus de Fire Emblem Fates.
Est-ce que c'est une idée ou est-ce qu'ils se sont vraiment pas fait chier ? Est-ce que ce qu'on nous a montré au Treehouse pourrait juste être un « voyez, c'est un mousseau » puis en réalité, le mode histoire pourrait peut-être être un peu plus profond ? Ou est-ce que t'as vraiment aucun espoir, d'après ce
que
t'as
vu ? Moi, j'y crois pas pour un jeu qui est censé sortir en septembre au Japon, quoi.
Il y a Kusai qui précise, pour parler de Metroid Prime, que l'on connaît le studio qui le fait. Apparemment, il est américain et a été formé par le producteur de la série Prime, Kensuke Tanabe.
Celui qui nous avait gratifié de l'excellent Metroid Prime Federation Force.
Excellent, oui.
Un jeu qui aura marqué son époque, un jeu qui a révolutionné un petit peu son genre à lui tout seul. D'ailleurs, il a pratiquement créé son propre genre, le jeu qui bide alors qu'il devrait pas.
Le jeu qui détestait avant même de sortir.
Non, mais le jeu détestait avant même d'être sorti. Bon, Fire Emblem Warriors, personnellement, je suis toujours un peu hype, même si...
J'aime bien le mousseau, mais ça va m'amuser 60 heures, et puis après, je vais le poser, quoi.
Oui, voilà, mais...
Je pense que ce sera comme Hyrule Warriors.
Hyrule Warriors, c'est ça, en fait. Finalement, c'était très amusant sur une courte période. Ce qui m'avait déçu, moi, sur Hyrule Warriors, c'était le mode de joueur, parce que finalement, t'avais un tel drop de résolution et de drop de framerate que... C'était à la limite de l'injouable, donc du coup c'est dommage parce que pour un jeu comme ça, qui finalement. Enfin, un mode coop, je trouve que c'est plutôt bien adapté à ce genre de jeu.
Ah, bah clairement, tu vas fermer du péon en groupe, quoi, en amoureux.
Franchement, moi j'y ai joué avec ma femme à Hyrule Warriors, et honnêtement, on s'est plutôt bien marré. Le seul problème, c'est que la résolution est vraiment dégueulasse, et que du coup, t'es pas super motivé pour y retourner parce que c'est crade, ça rame et tout ça. Alors qu'en réalité, le fait d'aller dire t'es à deux personnages, t'es capable, il y a une alerte à un endroit, pouf, tu te téléportes ou tu vas prendre un autre perso et tu... Enfin, tu vois, il y a quand même du potentiel, je trouve, pour arriver à golder des cartes d'Hyrule Warriors à deux, il y avait du haut potentiel, donc peut-être que ce Fire Emblem Warriors, il y aura du potentiel. Simple. Honnêtement, je préfère ça que Hyrule Warriors 2, où honnêtement, je vois pas ce qu'ils auraient pu apporter.
Clairement. Voilà. Bah, c'est Hyrule Legends, en fait, mais...
Hyrule Legends, c'est Hyrule Warriors, hein.
Ouais, mais non, mais globalement, moi, ça va m'intéresser. En fait, ce que je trouve cool, quoi, ça reste quand même de voir les personnages de Fire Emblem dans un jeu d'action. C'est vrai qu'on les voit un peu plusieurs Voltec dans leurs jeux respectifs, et que pour l'instant, à part Marth et Corinne, c'est des personnages qu'on voyait pas dans Smash Bros. Donc, il y aura un peu, ça donnera des situations un peu plus intéressantes, je pense, en termes de jeu, en tout cas.
Passons à la suite. Je vais volontairement commencer par Metroid Samus Returns. Donc nous avons enfin une explication officielle pourquoi AM2R, Another Metroid 2 Remake, s'est fait bâcher le cul.
Bah, ils n'avaient pas spécialement besoin d'explication.
Hein. Ouais, effectivement, mais là maintenant c'est officiel, il y a un remake de Metroid 2 Return of Samus sur Game Boy, et c'est Metroid Samus Returns.
T'as vu, c'est malin quand même, hein, la façon de tout titre, ils ont inversé.
Eh non, mais attends, pas vu, pas pris, hein.
C'est ça. Et d'ailleurs, l'équipe de développement, je sais plus s'il a annoncé pendant le Treehouse, mais c'est ceux qu'on fait les derniers Castlevania.
M2R.
Non, c'est pas ceux qu'on fait à M2R.
Non, c'est pas ceux qu'on fait à M2R.
Désolé.
C'est Mercury Steam, les Espagnols, qui ont fait les derniers Castlevania, dont je sais plus comment il s'appelle, celui sur 3DS, qui était
le moisi.
Bien mais pas top.
Ah non, c'est de la merde. c'est Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate.
Voilà, et donc c'est eux qui s'en occupent.
Et ils ont, par là même, ils sont rentrés aussi dans le Guinness des records pour le titre le plus long et le plus cliché de l'histoire du jeu vidéo.
Ah ouais ? Tu veux dire plus que les titres de Baten Ketos ?
Je veux dire que globalement, je pensais que Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a Dark Lord était déjà un titre relativement imbuvable.
Quoi ?
Mais c'est pire.
Pourquoi on a pu être Rosgard ? Et moi aussi.
Mais je cette émission,
voilà. Mon cerveau, il a bugué. Je n'ai rien compris au
jeu. J'avoue que c'est pire que Battle Ketos, les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu.
Mais quoi ? Putain, mais moi je suis habitué,
Galaxy, si tu veux. Au départ, il y avait Sonic. Après, ils ont fait Sonic 2. Après, ils ont fait Sonic 3. D'accord. Après, ils ont commencé à avoir honte et ils ont appelé Sonic and Knuckles. Et après, ils ont. Voilà, tu vois, c'est un peu comme Final Fantasy a jamais eu honte et Final Fantasy 15, ça les dérange pas. Mais il y a plein de gens, à part arriver au 4, tu sais, c'est comme les films.
Bah, comme Assassin's Creed.
Aliens. Alien 3, donc déjà ça a pu, voilà, c'est un peu parti en couille. Alien Resurrection, oh putain, ils ont mis Resurrection dans le titre. Et maintenant Alien Covenant, oh putain, mais pourquoi ?
Attends, Roy et Prometheus quand même. Hein.
Prometanus, comme on dit par chez
Prometanus. Mais si tu veux, dans les titres longs, j'en ai un autre aussi pour toi.
Oh oui.
Non, mais là je vais pouvoir finir l'émission, genre vraiment.
Attends, il est beau. Fire Emblem, New Mysteriosity Emblem, Hero of Light and Shadow.
Oh, pas celui-là, non.
Ah, il est bon.
Vous joli, hein, c'est du Nintendo.
C'est marrant parce que mon cerveau ne peut pas enregistrer les mots. Genre, il les entend, mais il veut pas les comprendre.
Moi, ça m'arrive de temps en temps, c'est les mecs me parlent et je comprends les syllabes, mais j'arrive pas à former les mots de la phrase.
Mais c'est genre pour les titres, c'est bon, d'accord, je n'ai rien compris.
Mais attends, il y a aussi Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King.
Oui, ah, mais c'est les Sims, ça.
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas mon préféré. Il y avait eu un...
On digresse un peu beaucoup.
Non,
là.
Mais c'est pas grave, ouais. Parce que c'est rigolo.
Ça, on va faire une émission sur les longs noms de vidéos.
Bon, Metroid Samus Returns. Moi, je suis moyennement confiant parce que c'est vrai que j'y ai joué à Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate, Resurrection, Revelation 3DS+. Plus. Non complet, hein, réel. Et c'était quand même de la grosse merde. Néanmoins, le moteur du jeu qui était utilisé était plutôt performant, donc si ils ont un petit coup de pouce de Nintendo pour faire un truc intéressant, en plus je pense que le matériau de base est pas inintéressant, parce que Metroid 2, c'est le seul jeu de la saga Metroid qui a jamais été refait d'aucune manière, et qui est vraiment intéressant sur le principe, hein. Je rappelle, le principe c'est que Metroid... Enfin,
tu veux dire qu'il n'a jamais été refait à part Super Metroid ? Metroid Fusion ?
Super Metroid refait pas du tout.
Ils sont jouables, ceux-là.
Metroid 2 pour leur faire aujourd'hui, c'est quand même hardcore, on est d'accord,
non,
c'est imbuvable.
Super Metroid n'a pas été remaké non plus, enfin, c'est ça que je voulais dire.
Non, mais Super Metroid n'a pas été remaké, mais en même temps, il n'y a pas besoin. Metroid, le premier, a été remaké, t'as Zero Mission.
Excellent.
Excellent jeu.
D'ailleurs,
et vraiment
du monde,
hein. Excellent remake.
Si tu veux comment faire un bon remake, tu prends Zero Mission.
Voilà, ça c'est vraiment le je pense que c'est effectivement c'est ça, c'est le B.A.B.A. du remake, le mode
pour
quoi de faire remake.
Ou alors Remake 101.
C'est un peu ça. Et donc du coup, Metroid 2, il a jamais été refait, et c'est bien dommage parce que je trouve que le principe est assez amusant, c'est-à-dire finalement la Fédération a scanné la planète je sais plus quoi, et ils ont découvert 37 Metroid, et il faut les éliminer. Et en fait, le jeu se termine quand t'as réussi à éliminer la reine, qui est le dernier Metroid du jeu.
Comme dans Metroid 2 VRM.
Spoiler.
Ouais, c'est de la merde.
Non mais bon, voilà, je trouve que le principe du jeu est intéressant. Sur Game Boy, ça marchait bien à l'époque, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même compliqué. Parce qu'il y a très peu d'aide. C'est comme le premier Metroid, finalement, on te lâche un peu en slip. Enfin, en slip avec une armure, mais en slip quand même.
Bon, Samus, alors, quand elle a juste l'armure de base, c'est comme avoir un slip.
Alors, étant donné que c'est Samus, c'est peut-être un Tanga. Hein, on ne sait pas. Alors, un Tanga avec un soutien-gorge à balconnet, peut-être. Hein,
c'est un Justin Bieler, en fait.
Mais on va pas faire des suppositions un peu trop... on va pas s'avancer, parce que sinon...
Écoute, je propose à tous ceux qui nous écoutent de nous tweeter des trucs cochons de Samus Aran. Parce que là, voilà, je pense qu'on a lâché, les chiens, on peut y aller. Donc, je trouve que c'est intéressant d'arriver à refaire ce jeu-là. Je pense que.
Les leaks officiels.
Castlevania Lords of Shadow, malheureusement, il y avait un bon moteur qui était très solide. Le problème, c'est que c'était chiant comme la pluie et que je pense que le matériau de base était quand même de la merde. Et parce que c'est Lords of Shadow, c'est le beat'em up qui avait été créé à base de Castlevania qui était. Quand même pas extraordinaire.
Qui est sympa, mais c'est du beat'em up 3D.
C'est la version franco-belge du beat'em up.
La version
j'ai quand même bien aimé le premier.
C'est le truc qui s'emballe les meules.
J'ai quand même bien aimé le premier Lord of Shadow, mais c'était un peu plus complexe. C'est un peu complexe pour un beat'em up occidental, mais apparemment les deux suivants étaient pas géniaux. Et puis ça manquait de bonne musique Castlevania surtout.
Ouais, non, mais voilà, donc c'était le matériau de base n'était pas top. S'ils reprennent le même moteur amélioré et que le matériau de base est meilleur et qu'ils ont un petit coup de pouce de Nintendo, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à faire quelque chose de très honnête.
Je pense qu'il y aura les mecs de Nintendo derrière pour leur dire bon, faites un truc bien quand même.
Et en plus, on s'en fout, il y a des amiibo.
Je me demande réellement.
Ils sont cool d'ailleurs.
Si la visée libre va avoir un impact, parce que comme le jeu à la base n'a pas été designé avec une visée libre, je me demande réellement si ça va pas piquer certaines sections.
Visée libre.
En fait, tu peux viser à 360 degrés au lieu de faire 8 directions.
Tu peux viser à 360, oui. Au lieu de à 45 degrés, tu sais, comme dans Metro Fusion.
Bah alors le problème c'est toujours pareil, c'est de calibrer le gameplay pour ça.
Bah, comme c'est un remaster.
Mais,
donc,
on est d'accord, mais Megaman peut pas se baisser, du coup il y a très peu d'ennemis qui rasent le sol, il y en a quelques-uns, mais assez peu.
Oui, si ils refont bien le level design, ça devrait le faire.
Sauf que là, le level design à la base a été pensé pour viser à 45 degrés, et donc du coup il y a certains ennemis, je l'ai pas fait, hein, mais je pense qu'il y a certains ennemis qui n'étaient pas accessibles, justement parce que tu pouvais viser qu'à 45 degrés. Alors là, s'ils font une visée libre qui est plus moderne, mais est-ce que ça va pas niquer certaines sections?
Pour avoir joué à Metroid 2, et nous avons malheureusement perdu Zergy, je viens de me rendre compte, pour avoir joué déjà à Metroid 2, le fait d'avoir une visée à 45 degrés, c'était bien adapté à l'environnement. L'agressivité des ennemis, là, de ce qu'on peut voir, en tout cas dans ce Samus Returns, elle a rien à voir avec Metroid 2. Metroid 2, les Metroid ennemis, ils sont juste un peu concons, ils te foncent dessus, il y en a deux ou trois qui ont des patterns parce qu'ils sont un peu gros, et c'est à peu près tout, hein. Alors que là, les ennemis, ils ont l'air d'être compliqués à abattre. Il y a l'air d'y avoir, faut tirer à des endroits précis. Enfin, je pense que c'est vraiment, faut vraiment le voir comme un remake. Je pense que ça a été repensé pour, et je maintiens, si c'est bien fait, il y a vraiment moyen que ce soit sympa.
Moi, je l'avais vu vraiment comme un remake HD en fait, et donc du coup, je me demandais comment ça allait être intégré. Mais si effectivement les patterns des ennemis ont été changés et certaines sections ont été redesignées, pourquoi pas.
Ah bah c'est comme Zero Mission. Zero Mission, il y avait des parties qui n'existaient pas dans le premier, notamment toute la surface sur Crateria qui n'était pas dans l'original.
Ah, c'était pas dans le premier ? Ah ouais ?
Ah non, c'était pas du tout. En fait, Metroid Zero Mission, c'est vraiment un modèle du genre parce que c'est un remake, mais qui arrive à surprendre même énormément les gens qui connaissent très bien l'original.
Oui, c'est un tout nouveau jeu.
Ça démarre exactement comme un Metroid, mais à un moment, le truc part en couille, tu peux plus atteindre un truc, et tac, ça y est, tout d'un coup. Putain, il y a de la nouveauté, c'est pas du tout pareil, t'as une toute nouvelle section, t'as tout un tas de trucs, donc c'est vraiment reprendre le matériau de base, reprendre les principes, réutiliser un moteur qui marche très bien, qui était le moteur de fusion, qui est un excellent Metroid aussi, peut-être un peu court, mais qui était vraiment très très bon.
Comme tous les Metroid, hein. D'ailleurs, je pense que Samus Returns ne sera pas très long non plus. Hein.
Je pense aussi que ce sera pas très très long, mais l'essentiel, c'est pas que ce soit long. Je rappelle que l'important, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
Oui.
Donc le reprendre ce truc là et arriver à en faire quelque chose de nouveau, c'est à dire à la fois passionner arriver à accrocher les gens qui n'ont jamais joué au premier et en même temps arriver à surprendre les gens qui ont déjà joué au premier tout en gardant cette familiarité. Il y a vraiment un côté super super léché, super, super bien organisé, super bien foutu sur juste Zero Mission. S'ils arrivent à renouveler l'exploit pour Samus Returns, je pense que ça peut être un excellent jeu. Vraiment.
Par contre, il y a un petit truc moi qui m'a marqué la première fois que j'ai vu les vidéos du jeu. Bon, ça va un petit peu mieux maintenant que je me suis habitué, mais la DA pique un peu quand même.
Ouais. Et M2R était plus joli dans son style.
Bah M2R, c'était le moteur de Zero Mission.
Ouais, voilà.
Donc voilà.
C'était pas de la 3D, donc forcément.
La 3D est un peu dégueulasse.
Bah, ils ont pris les sprites de Zero Mission, donc bon.
Alors c'était. Après, c'est un choix de DA. C'est vrai que moi, je la trouve pas extraordinaire. Mais je me dis que, pareil, il y a moyen d'avoir des décors un peu sympas, il y a moyen d'avoir quand même quelque chose de bien travaillé.
Après, c'est vrai que la 3DS, c'est pas foufou, et...
Et ça commence aussi à piquer un petit peu quand tu regardes, même sur les vidéos de Nintendo, où tu sais, ils te mettent toujours un cadre énorme autour de la vidéo pour pas que tu vois que la résolution est un peu merdique. Tu vois que ça commence quand même... Enfin, que la 3DS commence un peu à accuser son âge, quoi.
Ouais, elle est pas faite pour un style réaliste, et Metroid, c'est une série qui en 3D qui a toujours été plus ou moins réaliste, ce qui fait que ça passe pas très bien. Donc c'est dommage qu'ils aient pas passé en 2D, mais il faut quand même garder en tête que des mecs, des bons artistes 2D, encore dans le jeu vidéo, il n'y en a plus des masses. Hein.
Ah, ça commence à se raréfier, à part comment les mecs qu'on fait
Bah, t'as l'équipe qui a fait le Wario sur, sur Wii.
Ouais. T'as les mecs qui ont fait. Putain, je me souviens plus.
Même,
de ce...
même Arc System Works qui
Odin Sphere.
Ouais. Odin Sphere, bah oui, mais eux ils sortent un jeu tous les 5 ans quoi.
Ouais, voilà, mais c'est les derniers hein, qui ont vraiment.
T'as,
les...
t'as même Arc 6 qui était quand même un studio basé sur de la baston 2D et leur, pour leur dernier épisode, pour le dernier Guilty Gear qui est leur franchise phare, ils sont passés sur un 3D avec un très beau moteur rendu 2D. Ah,
en même temps,
d'ailleurs, j'ai oublié de parler du Dragon Ball.
Bah justement, en même temps, quand tu vois Dragon Ball Fighters, ou Fighter Z d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle exactement.
Oui, c'est Dragon ça, Ball Fighter Z. Z.
Fighters
Z.
Quand tu vois que. Quand les mecs t'expliquent que ça c'est de la 3D et que tu vois la gueule du rendu, c'est impressionnant.
Et après tu vois Ultimate Marvel vs Capcom et tu pleures. Ouais. Il est et... moche putain.
Surtout que c'est de la 3D sur lesquelles ils ont recréé les imperfections du dessin à la main.
Ah oui, non, mais même les animations mais sont
même
3D,
les animations,
mais
même les déformations des... Enfin, il y a un truc qui est très difficile à gérer en 2D, c'est tout ce qui est déformation, parce qu'en réalité, t'es obligé de redessiner chaque frame.
Et c'est pour ça que ça se fait très peu en 3D.
Tout à fait, tu le vois bien sur Ultra Street Fighter 2, sur la version moderne, tu vois que les mecs ont été obligés de redessiner à la main des déformations et des choses comme ça, et que ça a dû être très compliqué de redessiner certains calques, et que c'est quand même un gros boulot. L'avantage en 3D, c'est que finalement, les modèles se déforment tout seuls, puisque c'est un mesh qui se déforme au complet. Et donc, si t'as juste un moteur de rendu qui te permet de faire une impression de 2D, t'as tout d'un coup un truc qui est magnifique, alors que tu as un effort, finalement, de création et d'animation qui est extrêmement faible. Donc, c'est vraiment intéressant, hein, ce qui a été fait pour Dragon Ball Fighters, ne serait-ce qu'au niveau technique. Il y a le rendu du jeu est vraiment très, 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 très joli.
Ouais. C'était une parenthèse, mais ça valait le coup d'en parler.
Et je propose que nous finissions... sur
Xenoblade 2.
Alors attends, non, on va d'abord parler de Xenoblade 2, effectivement, excuse-moi Antix, je l'ai failli l'oublier parce qu'en fait, sur le direct, finalement, on n'a pas montré grand-chose, c'est plutôt sur le Treehouse qu'il y a des choses qui ont été montrées, et du coup, tu vas nous en parler parce que moi, j'ai pas suivi le Treehouse.
Alors, est-ce que vous connaissez Xenoblade ?
Non.
Non, je sais pas, il paraît qu'il y a un jeu de rôle.
C'est un jeu vidéo.
Donc, c'est
pas de leur Skyrim.
Si, mais d'ailleurs, dans Skyrim, il y aura un amiibo, l'amiibo Zelda est compatible. Hein.
Oui.
Pour avoir un
bien moche et c'est ridicule et en fait ils sont payés 15€ le mode.
S'il vous plaît non.
Exactement. Donc Xenoblade 2, ouais, on a eu surtout un. Alors dans le trio c'était un gros thriller pour présenter un petit peu l'histoire et l'univers. Donc on sait que le héros sera accompagné d'une nana qui est à la fois une lame. Alors ils disent Blade en japonais et en anglais, mais du coup ils disent lame en français, donc je pense que ça n'a aucun rapport avec le Blade de Xenoblade X. Parce que les mondes n'ont aucun rapport. Mais ça m'a un peu fait tilter. Bon, ça a l'air d'être Xenoblade en fait. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de nouveau.
Ça a quand même pas l'air d'être la folie furieuse. Hein.
Non, mais connaissant Takahashi, on aura. Enfin, là, ils veulent plus revenir sur. C'est ce qu'ils ont dit dans le Treehouse, sur un truc avec du storytelling. Et plus fantasy par rapport à la art science fiction de Xenoblade X. On retrouve à nouveau des mondes un peu organiques avec. Là, je crois que ce qu'on voyait dans le trailer, c'est une espèce de girafe ou de tortue qui portait le monde sur son dos. C'est vrai que pour l'instant je pense que ce sera un très bon jeu, hein, je me fais pas trop de soucis. Il n'y a pas eu de gros changements montrés. Le système de combat, si maintenant ton personnage principal sera lié à ce qu'ils appellent l'âme, donc la fille qu'on a pu voir dans le trailer, et puis d'autres trucs que tu pourras récupérer en jeu. Et tu pourras les alterner pour avoir un bon élément et différents arts, donc à voir comment ça fonctionne. Si ça marche aussi bien qu'avant, je trouve que c'était quand même un petit peu plus mou et moins dynamique que dans les précédents. Donc voilà.
Donc à voir peut-être.
Bah il sort toujours en hiver 2017.
Il est toujours prévu en hiver 2017, donc effectivement...
Je reste toujours surpris par la vitesse à laquelle le jeu sort par rapport aux précédents. Mais vu qu'ils doivent sûrement partir du même moteur, ils ont l'expérience, maintenant ça doit aller plus vite. Et on va voir ce que ça va donner. Sachant quand même que sur le plan de l'histoire, j'espère qu'on aura quelque chose de mieux que Xenoblade X. Et que ça tombera pas dans les écueils du fanservice d'anime japonais, comme le laisse montrer le nouveau chara-design, notamment de l'héroïne, qui est pas là pour le coup, qui est un peu dégueulasse et un peu racoleur. Je suis pas très...
T'es pas convaincu, quoi. T'es pas rassuré.
Pour l'instant, je suis content qu'il sorte, hein, mais ouais, c'est vrai que j'attends de l'avoir en main.
D'accord. On va donc finir avec le meilleur jeu de l'histoire de l'univers.
Pokken.
Le Wall Up Girl.
Le I Wanna Be Your One Up Girl.
Ah, je serai ton One Up Girl tous les jours, Mario.
Ouf. Ça va être sexy. Super Mario Odyssey, qui a juste hypé tout le monde avec cette chanson absolument mythiquissime.
Qui, à l'heure actuelle, est le seul jeu pouvant faire concurrence à Zelda pour le titre de jeu de l'année à mes yeux.
Alors, si Nintendo fait un doublé Mario-Zelda la même année, ça va quand même faire très mal à tous les autres. Le jeu a l'air juste super fun. On savait que le chapeau était animé et faisait des trucs, mais apparemment, les mecs
s'appellent Capi.
Il s'appelle Capi. Et les mecs, ils sont partis, ça y est, ils sont partis full hat, quoi. Je veux dire, ils en peuvent plus. Et le chapeau sert à tout faire, à ramasser des pièces, à sauter dessus, à prendre possession des ennemis. Oui, ça a l'air d'être la folie, quoi.
J'ai ma théorie d'ailleurs sur cette fonction. Donc ça se passait dans le QG de Nintendo, à Kyoto ou à Tokyo. En gros, c'est comment il s'appelle, Koizumi qui vient voir Michel, il dit « Bon, on a plus d'idées pour les power-up, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Eh bien, mon cher Koizumi, je te propose qu'en fait tout le jeu soit un power-up. Allez, vas-y, banco, Michel. Mets ça
dans
le jeu.
À foutre. Hop. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé de Mario et les lapins crétins.
Ah oui, bah oui, on a dit qu'on en parlera après, mon ami.
Franchement, il me tente bien, mais vraiment. Ça a l'air d'être n'importe quoi, donc c'est bien mon
jeu. Je vous propose de faire une parenthèse Mario et les lapins crétins tant qu'on est sur Mario. Ça se verra presque pas. C'est un XCOM-like en fait, et ça a l'air vraiment sympa. C'est-à-dire que j'étais pas du tout convaincu par la DA, mais le jeu, quand tu vois ce qui est en jeu, le truc a l'air vraiment ultra clean.
Ah ouais, c'est super beau, ça.
C'est super beau, vraiment, le truc a l'air propre et tout.
Et je trouve ça bien qu'il soit parti sur un truc tactical à la XCOM. Parce que du coup, c'est un truc qu'on n'a pas chez Nintendo, qu'on connaît très peu d'ailleurs sur console.
Mais il y a Codename Steam, mais c'est à peu près le seul.
Et ouais, non, mais c'est ça. Et je trouve que ça se prête bien du coup.
Et c'est le premier tactical Nintendo qui est pas fait chez Intelligent System aussi.
Qui est pas fait chez Nintendo tout court en fait.
Ils en font jamais Nintendo des tactical. Hein. Intelligent System leur a tactiquement en seconde partie d'ailleurs.
Ouais, mais voilà, donc il a l'air d'être très joli. Et
j'attends
la Bimbo, vraiment sympa. Et en plus, ça sort très vite, il me semble.
Il sort le 29, il sort fin août.
Cet été, oui. Voilà.
J'aurais bien aimé qu'il sorte au milieu de l'été pour pouvoir tranquillement pour pouvoir y jouer.
Ouais. C'est pas le 29 juillet ?
Non, 29 juillet, c'est Splatoon.
C'est pas le 21 juillet, Splatoon ?
Ouais, mais bon, ils évitent de sortir des deux gros titres à une semaine d'écart quand même. Ils sont sympas.
Ouais, mais ça a l'air vraiment sympa. On va fermer la parenthèse.
Ouais, c'est un jeu d'ailleurs qui est en développement depuis 3 ans. Hein. C'est, pour le coup, il y a le projet et je pense qu'ils sont passés plus de temps sur ce projet-là que sur les deux derniers Warriors de Nintendo réunis. Hein.
Je pense qu'ils ont passé plus de temps sur ce projet-là que sur Just Dance 2000. Attendez.
Nintendo a dit non à Ubisoft pour les phases de plateforme. À la base, il devait y avoir des phases de plateforme et Nintendo a dit non, vous faites juste un tactical RPG. Et pourtant, ça se prête bien parce que c'est un petit peu un mix entre Mario 3D Land et XCOM d'après ce que j'ai vu. C'est-à-dire que tu te déplaces en temps réel.
En fait, XCOM, c'est dit Tactical Gunner, c'est-à-dire effectivement un jeu de tir tactique. Un peu comme les tests. Je crois que c'est Steam World Haste, qui est un peu dans le même genre, sauf que c'est en 2D.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est vraiment Tactical Gunner tour par tour. Et effectivement, si j'ai bien compris, Ubisoft, on leur a dit non, vous vous contentez de faire ça, mais vous le faites bien.
Je trouve que c'est un bon choix, hein, parce que ça offre de la variété, du coup. Et d'ailleurs, moi, l'aspect visuel, en jeu, j'ai l'impression de revoir Super Mario RPG, par moment.
Ouais.
Bah, ce côté, c'est le côté un peu en mode isométrique, avec des maps un peu carrées, et le fait que dans le décor, t'as des blocs, quoi. Enfin, moi, c'est toujours cette image que je garde de Mario RPG, c'est-à-dire que des fois, t'as un bloc de Mario qui traîne dans le décor. Hein.
Voilà, donc on va fermer cette parenthèse Mario Lapin Crétin, parce que sinon on nous aurait reproché de ne pas l'avoir fait.
On
va revenir sur le jeu intéressant qui est Super Mario Odyssey. Donc apparemment on ramasse des
lunes. C'est le vaisseau Odyssey d'ailleurs. Oui, alors justement, il vient d'avoir un tweet sur le compte de Super Mario, et qui dit que les lunes, elles sont transformées en liquide et elles sont stockées dans le vaisseau de Mario qui s'appelle l'Odyssée.
Ouais,
et qui ressemble à un chapeau. Quoi ?
Hein ? Non, rien d'autre.
Oh putain, t'es sérieux ?
Il dit que de la merde.
Quel pervers, ce truc.
C'est honteux.
Donc, je sais pas, le jeu a l'air d'être quand même super fun. I'll Be Your One Up Girl, c'est quand même le truc qui te donne ta mort.
C'est la bonne ambiance.
C'est le jeu de l'amour.
C'est la bonne ambiance de Mario 3D World, mais dans un jeu qui a l'air quand même beaucoup plus ambitieux. En termes de taille du monde,
de DA,
d'univers. J'adore les costumes de Mario, moi, ils me font vraiment triper.
Et oui,
il y aura Mario des qui se transforme en n'importe quel ennemi. Enfin, effectivement, l'intégralité du jeu est un item. Et je trouve que, je sais pas, le Mario Poisson, tous les gens à qui j'ai montré le trailer, le Mario Poisson, tout le monde était explosé de rire, quoi. C'était improbable.
Les petites moustaches, tout le monde se tape. Enfin, tu vois, la casquette, c'est sympa, mais la petite moustache, mais tout le monde là, je trouve ça génial.
C'est juste
même
énorme.
Le T-Rex.
Même le T-Rex, un petit
peu. Le T-Rex, il y en a un au-dessus de la gueule. Et donc, du coup, il y aura des petites quêtes secondaires en fonction des vêtements que tu portes. C'est-à-dire, il y a des endroits qui ne sont assez accessibles que si t'es sapé d'une certaine manière.
Tu veux dire que je peux pas faire tout le jeu en mariachi ?
Non, bah, malheureusement.
Si, moi, j'aurais bien été tenté. Hein.
Tu peux, mais tu pourras pas. Par exemple, il montrait dans le Treehouse que il y avait une discothèque dans le monde. Enfin, un club, pas une discothèque, mais un club salsa tapas.
Un club.
Dans le monde mexicain, Donald Trump. Et en fait, tu pouvais pas y rentrer si t'étais pas habillé totalement mexicain.
Ah mais non, en fait, tu vas pouvoir changer toutes tes fringues, et pas seulement le chapeau.
Ah oui, non.
C'est tout, hein.
Parce que ce qu'on a vu, nous, c'est...
Tu peux changer toutes tes fringues.
Extraordinaire, c'est Mario avec un sombrero, moi je suis désolé, mais c'est...
Ah non, mais d'ailleurs, t'as trouvé le sombrero et t'avais la tenue complète derrière. T'avais le poncho, voilà, et t'as la tenue complète d'explorateur aussi, que je trouve vraiment super. T'as la tenue de Mario Maker. T'auras la tenue de Mario Maker.
Mais attends, du coup, ça va être une espèce de mix entre Lego and the City Undercover où faut changer de tenue pour faire des trucs et ils ont repiqué, en fait, ils ont fait comme d'habitude, ils ont repiqué des idées un petit peu partout en essayant de faire quelque chose qui marche.
Bah, c'est comme en fait, les tenues vont juste servir à choper des lunes bonus. Là, tu peux faire tout le jeu en tenue de mariachi, mais il y a un bâtiment dans le monde de la ville que tu pourras pas, tu pourras pas accéder.
Donc c'est Geist rencontre Lego City Undercover.
Rencontre Mario.
Ah, 64.
Du coup, je me connais, moi je vais faire le 100% comme tous les Mario 3D. Donc,
Sauf qu'il y a Capi.
Mais il y a le chapeau en plus. Alors le chapeau, je sais pas moi, cette idée d'utiliser le chapeau de Mario, parce que le chapeau de Mario depuis Mario 64, c'était quand même un...
Bah, c'est l'icône, quoi.
C'était quelque chose d'assez fort. Tu pouvais le perdre, ton chapeau, t'étais dans la merde quand tu le perdais, t'avais moins de vie ou je sais pas quoi. Enfin,
alors tu prenais plus de dégâts.
Tu prenais plus de dégâts, donc c'était quand même rigolo. Mais là, tout d'un coup, le chapeau devient un personnage à part entière et c'est l'accessoire que... Enfin, je sais pas comment l'idée leur est jamais venue avant. C'est l'accessoire que Mario a tout le temps sur lui. Et là, tout d'un coup, ça devient un outil. C'est-à-dire, on peut aller le balancer pour ramasser des pièces, pour sauter dessus, pour... Voilà.
Putain, et surtout que c'est pas, chapeau, il est là, c'est pas tant un outil qu'un personnage à part entière et qui compte dans l'histoire, puisque sa forme originelle, c'est un chapeau de forme, comme...
Fantomatique.
Oui, avec un... Enfin, il y a un bas de fantôme, et il y a un haut de forme, mais... Il ressemble, du coup, au chapeau de Bowser, Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu dans le trio, je sais pas si c'était une hallucination, mais il y avait une roquette qui avait une casquette aussi. Pas alors ah, c'est que possible. C'est pas Mario
t'as
qui
pas
contrôlait.
Possédé par Mario ah. Parce que
non, c'est dès qu'il sortait, il y avait tu sais les casquettes de tennis là où en fait c'est juste d'accord. Un tour de tête. Bah il avait ça.
Alors peut-être qu'il y a d'autres trucs qu'on nous a pas montré encore, mais
bah,
c'est
y a,
vrai que
y avait bien
le simple
des...
fait qu'on puisse posséder n'importe quel ennemi, ça veut dire que
ah, ça, peux... c'est...
enfin c'est juste il y a quand même un côté absolument
génial
là-dedans.
Pour les speedruns, ça laisse des possibilités énormes.
Mais les ennemis casquettes, c'est pas déconnant, on avait bien des Goombasha dans Mario 3D World.
Complètement, ouais. Alors après, la question c'est, est-ce qu'ils pourront prendre possession de Mario, ou auquel cas ça va commencer à devenir étrange.
J'avoue que ce serait un
peu... Tu lâches ta manette et tu laisses le chat contrôler le jeu.
Il y a un autre truc moi dont j'aimerais parler, c'est ce bouquet de plantes piranhas de Peach en tenue de mariée. C'est juste
c'est génial.
Je sais pas, moi c'est le jeu, quand tu vois le trailer, ça te colle une banane d'enfer et t'es juste... Je sais pas, je trouve ça magique comme jeu, moi.
Même
c'est
si techniquement, c'est un mariage forcé, tu vois, avec Bowser, donc on n'est pas trop dans un contexte qui est drôle.
Ce sera juste le deuxième qu'elle fera.
Voilà, donc c'est bon.
Le dernier, c'était il y a 10 ans, d'ailleurs, donc c'est parfait.
Quand on sort la DA, elle a l'air full random. Enfin, genre, sur l'univers, on dirait que c'est... Même au niveau du grain et tout, ça paraît être la même chose.
Se sont fait plaisir.
Bah, j'ai l'impression que leur but, c'était de dire, ben, ouais, c'est Mario, il part dans un autre monde, en voyage, en Odyssée. Il fait son Odyssée et du coup, ben, pour eux, ça leur paraît... C'est pas déconnant de dire qu'il y aura des ambiances différentes et pour le coup, quitte à changer un peu la palette graphique, quoi.
Je pense que c'est volontaire, connaître le multiverse.
Est-ce qu'il risque quand même d'y avoir un problème de cohérence, on va dire, de la DA? Moi, personnellement, c'est vrai que le Tyrannosaure, quand je l'ai vu arriver sur l'écran, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?
Bah, je me suis dit que ça va être un mauvais jeu de baston de dinosaure, comme on en avait eu un sur 3DS.
Ouais, c'est un peu ça, mais en fait, si tu veux, le Tyrannosaure est très bien fait, mais l'herbe sur laquelle il marche est très cartoon. Et je trouve qu'il y a un vrai décalage, il y a une vraie dissonance cognitive. Putain, c'est n'importe quoi, je pense que c'est de la merde.
Entre la ville et le monde mexicain, ça n'a aussi rien à voir.
Ça n'a absolument plus rien à voir, et ça fait quand même très bizarre au global.
Je pense que c'est vraiment... Mais les mondes ont l'air très très riches, et ça m'étonnerait pas que ça soit à chaque fois un mini open world où de toute façon, t'as tellement de trucs à faire que tu passeras 5 heures dans la ville... Et puis à côté, tu passeras 5 heures dans le monde de mexicain, tu feras pas des allers-retours comme ça, sauf pour compléter à la fin. Mais tu feras pas d'allers-retours intempestifs, donc à mon avis, ça dérangera pas tant que ça.
Est-ce qu'ils font un monde Knack 2
Non, parce que...
Boulder.
Ça m'étonnerait, parce qu'en vrai, en fait, Knack, genre, c'est Sony, et je sais pas s'ils peuvent faire un partenariat comme ça avec ça.
Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de répondre au premier degré
à chaque fois j'arrive à le posséder quoi.
Mais non, mais c'était.
Non, mais si tu veux, je t'ai tendu une perche longue comme.
J'arrive tellement pas à l'ironie.
Enfin, une très longue perche, et t'as rien, voilà, t'as rien bité, tac.
Bah, il a toi,
mais pas. Si, mais c'était censé être de l'ironie, mais j'arrive pas à la faire. C'est pas grave.
Disons qu'en fait, t'étais.
La chapeau spéciale,
t'étais pas assez autant.
Il y a Nintendo Canada qui file des tippins Mario Odyssey, voilà, à côté des bornes où tu peux essayer Mario Odyssey.
J'espère qu'il y en aura en France la semaine prochaine.
Oh. Ah, me rappelle pas que j'y vais pas là. Enfoiré.
T'es deg, hein.
Complètement.
Non mais Drosgar, il est à fond.
Drosgar, tu me voles une Switch et un pins.
Et la fille de la
Et pas le jeu, par contre.
Le carpent avec la fille sous le bras.
Drosgar, si t'arrives à repartir avec la meuf cette année, mon gars, mais tellement de respect, tu peux pas imaginer.
Je vais faire des cartes de visite cette année, ce sera plus simple.
Putain, l'enfoiré.
Tenez, j'ai ma carte de visite.
Bref, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur Super Mario Odyssey, parce que c'est vrai que malheureusement...
Que j'ai énormément hâte d'y jouer et qu'il va sortir en octobre.
Il y a autant des trucs à dire. Ça, donc effectivement, on voit que ça sera... Enfin, on savait déjà, mais on le voit enfin, avec tout le gameplay, que ça se rapproche vraiment de de Mario 64.
De Super Mario 64. Nintendo 64, tu veux dire?
Ouais, non mais putain, voilà, bon bref, ma langue est forchée.
Mais il commence à se faire tard. Hein.
En plus, c'est une époque qu'il a pas connue.
Oui, en plus, j'étais pas né, donc...
Ah putain. Ah mais à chaque fois que vous me le dites, ça me...
Faut lui rappeler. Hein.
Non, parce qu'il est vieux, donc...
Et non, alors, c'est vrai que ça
non mais moi aussi, ça me fait mal que tu n'y aies pas connu cette époque, parce que je l'ai connu.
Oh, attends, il y a Super Mario Odyssey, apparemment, il supportera tous les amiibo.
Oh putain. Donc tu vas avoir des tenues...
Les 2800 amiibo.
Wow. Tu veux dire que je vais pouvoir avoir une tenue Marf?
Quoi?
Non, rien. Bah, je joue
Marf. Tu vas pouvoir avoir, si tu as des amiibo, tu vas pouvoir avoir des tenues de plein de trucs.
Cool.
Je sais pas. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle.
Juste une question. Le jeu Yoshi et le jeu Kirby, ils s'appellent juste Yoshi et Kirby?
Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre titre que ça. On sait que c'est un jeu Yoshi et un jeu Kirby.
D'accord.
Et on pourrait peut-être rappeler que Mario Odyssey, on va pouvoir y jouer dès fin octobre. Hein. La date a été annoncée. À la fin du trailer.
Bah, on savait que c'était fin d'année, et là maintenant, effectivement, c'est fin octobre.
C'est quoi, c'est 27 ou 29, je sais plus.
Oui, c'est quelque chose comme ça, mais ça veut dire que c'est très proche, hein. c'est dans 3 mois, quoi.
Non ?
4 mois.
Oui, plutôt.
Mais c'est pareil.
Bah non, il y a le mois de septembre.
Ça va arriver très vite, tout ça. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que j'ai très honnêtement peur que Nintendo soit en train de tirer toutes ses cartouches d'un coup. J'espère qu'ils en ont quand même gardé sous le pied. Parce que un Zelda, un Mario la même année, on l'a déjà vécu, ça c'est costaud quand même. Hein.
La dernière fois que c'est arrivé, on est arrivé pendant 2 ans.
Oui, voilà, c'est un peu ça aussi qui me fait peur.
Entre Zelda, Mario, Metroid, le Kirby, Yoshi...
Bah, Kirby, avis, Yoshi, c'est des bouche-trous, hein. C'est non, mais
les balancer d'un coup... Ouais, mais ça reste quand même des gros jeux, mais ça reste quand même de grosses licences. C'est-à-dire des licences qui ont une résonance particulière.
Alors Kirby, oui, Yoshi, moins.
Bah Yoshi c'est quand même un perso. Bah après c'est un 2D platformer quoi, peut-être basique, je sais pas, mais ça c'est quand même une annonce qu'ils ont mis en tant que grosse annonce, donc ça à mon avis est mise aussi dessus, et le fait d'avoir beaucoup de jeux dès le début, ça permet de vendre beaucoup de consoles, de maintenir une hype et du coup d'avoir des jeux pour les joueurs, genre vraiment je pense sur 2-3 ans là avec tous les jeux qui sont sortis, il y a de quoi faire quoi. Surtout avec les jeux multi.
Si la console se vend bien, voilà, ils peuvent avoir des jeux éditeurs tiers, alors pas des exclusivités parce que c'est fini maintenant. C'est peut-être ça aussi le plan, mais à voir ce qu'ils nous proposent d'autres. On sait juste que l'année prochaine, on aura un Kirby, un Yoshi, il y aura Fire Emblem, il y aura Pokémon, il y aura peut-être Metroid Prime 4. Est-ce qu'ils ont tiré toutes leurs cartouches? Non, je pense pas, mais c'est vrai qu'on aura peut-être un début 2018 un peu plus léger.
Après, il y a les indés aussi, parce que la Switch, elle se prête beaucoup aux indés, et on l'a vu déjà avec son annonce, où ils ont annoncé quelques jours après tout un tas de jeux indés.
Oui, mais c'est pas ça qui fait vendre mes consoles.
Ah oui, mais c'est ça qui l'a fait vivre. Pour vendre les consoles, t'as déjà Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, FIFA, t'as déjà tout ça. Et puis après, pour occuper les joueurs, tu peux avoir des indés, des indés triple I, quoi. Comme The Escapist 2 qui va arriver.
Mais The Escapist 2, ça va faire 15 ventes.
Oui, mais à côté, t'as The Manic of Isaac. Je pense que t'auras, si c'est pas déjà prévu, t'auras un portage Super Meat Boy. Et le nouveau jeu d'Edmund McMillan, là, le jeu en platformer, là. Le platformer 2D,
la fin de la nuit. Night End.
Clairement.
J'ai plus le nom en tête.
Bref, Rosgar, il avait un truc à dire.
Oui, je disais que Pikmin 4 était toujours en développement.
Pikmin 4, il y a des gens qui ont demandé si Pikmin 4, en fait, c'était pas l'opus DS qui est sorti. Que en fait, c'était lui. Ça serait ça.
Non, c'est bien un autre Pikmin.
Il y a bien un autre Pikmin.
Ok.
Je vous propose de nous conclure. Parce que là, ça commence quand même à faire tard, on est tous fatigués. Avant de conclure, il y avait une question de Don Kusei qui nous a gentiment envoyé une question qui était, du coup, c'est quoi le dernier bon Sonic? Je vais me permettre de te répondre, donc Don Kusei, ça n'existe pas.
D'ailleurs, voilà. J'ai une théorie là-dessus, c'est comme Dieu. Il y a des gens qui y croient, et alors qu'on ne l'a jamais vu. Du coup, je pense que tous les fans de Sonic font partie d'une secte.
Tu as déjà fait sur Twitter il y a 2 heures.
Oui, mais oui, tout le monde ne lit pas Twitter.
Voilà, nous allons nous quitter avec la citation du jour qui nous vient d'Antix. Hein, une fois
très grand philosophe de notre siècle.
Très grand philosophe devant l'éternel, à qui son patron avait dit une fois, donc ça fait 4 jours que t'arrives en retard, t'en conclus quoi? Ben qu'on est jeudi. Voilà, merci Antix.
Attends, c'était sérieux? Non, c'est pas sérieux. Non, c'est une blague.
Il prend tout au premier degré, c'est absolument atroce.
D'accord.
Non, je pleure. Des choses au premier degré. Bref, oui. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de Fire Emblem Shadows of Valencia, normalement, sauf si on a d'autres choses qui viennent entre deux. Comme vendredi prochain, on sera chez Nintendo en train de bouffer des petits fours aux frais de la princesse. Nous parlerons probablement d'un retour d'expérience sur tout ce qu'on a pu jouer, y compris Sonic Mania, Sonic Forces et Just Dance 2018, parce que je sais que vous attendez que ça.
Je serai pas là pour danser.
Je vais me déranger, ce qui est triste.
Et moi, je vous promets que il y aura du live tweet avec Mortal en train de danser sur Just Dance 2018.
Et Drosgar qui drague les hôtesses.
C'est une promesse.
Je vais encore me faire foutre dehors par la sécurité, vous allez voir.
Ah oui, c'est vrai.
Non, voilà. La question, c'est de savoir si ça arrive au début ou à la fin.
Si ça arrive à la fin, c'est pas gênant.
Prenez les paris, mes amis.
Voilà.
C'est donc le temps d'entrer et elle te signale la sécurité.
On se retrouve la semaine prochaine. Ta gueule et mes Tetris. Bisous tout le monde. Ciao.
Bye.
Salut.
Bisous.